La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Si j'écoute Docteur Jimmy contre le Barça, s'il revient, il sera en pleine forme.
Non, c'est l'inverse. Reposer. C'est toi qui penses que c'est un crime de sortir Mbappé et tu me fais passer moi pour un malade en disant ouais, non, il a mis Mbappé de côté, etc.
Moi, encore une fois, je le dis souvent, quand il fait beau, quand il pleut, il pleut.
Tu sais, un footballeur, c'est comme une poterie. Si, au début, elle commence par être déformée, mais pour la reformer, c'est impossible, elle a séché, c'est terminé.
20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, comme tous les soirs sur RMC de 20h à 22h. Avec autour de la table ce soir, Walid Acherchour. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
En face de toi, côté droit du ring, Kevin Diaz. Salut Kev.
Salut à tous.
Forme ?
Ça va très bien.
J'ai passé au mode printanier, toi, ça y est.
Bah ouais.
Reste en Génération 80, en mode Beverly Hills.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu Kevin.
Ouais.
Dans les studios. On ne te voit plus dans les studios.
Que j'ai pas vu Walid.
Il t'a manqué ou pas?
Au moins, il m'a manqué, moi.
Enfin, Walid nous en parle à chaque fin d'émission.
Ah ouais, ouais,
reviens quand, Kevin?
Moi, j'ai pas manqué Kevin.
Non, mais c'est clair. La dernière fois qu'on s'est vu, on a mangé ensemble.
Il s'en fout, j'ai l'impression.
Ouais, il s'en fout, lui.
Non, c'est pas vrai. La dernière fois qu'on s'est vu, on a mangé ensemble.
C'est vrai.
Et voilà.
Belle discussion.
Jimmy Brown est là également. Salut Jimmy.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Et notre invité pendant 2 heures, 6 fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais, une Coupe de la Ligue, on s'en souvient, international brésilien, Claudio Cachapa est dans l'after. Bonsoir Claudio.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Heureux de
t'accueillir.
On tutoie, hein. Pas un problème.
Bien sûr, bien sûr.
T'es encore un jeune homme.
Pas
hein.
Un problème, bien sûr.
D'ailleurs, t'as quasiment pas bougé depuis 2001, j'ai envie de dire même.
C'est gentil, mais ça fait plus de 20 ans que je suis arrivé en France. Hein.
Ouais, mais tu fais du sport encore, j'ai l'impression.
Ouais, un petit peu.
C'est ça. Bon, vous pouvez voir Claudio, bien sûr, également sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, en direct pour nous voir, commenter dans le chat et vous abonner aussi d'abord.
Ça fait mal quand même de voir qu'il est en meilleure forme physique que Walid et moi, son
autre. Les gars, comparez pas.
Ça fait un peu mal.
T'es pas gentil. Non, c'est pas vrai.
Ça sympa, hein, t'as
c'est
vu.
La vérité.
Bon. Hein,
c'est la vérité.
Tu n'as jamais été comme Claudio.
Oui,
je pense.
C'est vrai, c'est pas vrai.
Même à 3 ans, non?
Ouais, si, non, je pense qu'à 11 ans.
2 heures avec toi, Claudio, on va revenir sur la saison de l'OL. Tu as été l'adjoint à l'OL jusqu'en 2023, avant d'entraîner Botafogo pendant quelques semaines, Molenbeek en Belgique. On va parler de John Textor, que tu connais bien, bien sûr. La Galaxy Eagle, d'Alexandre Lacazette par exemple, de Bradley Barcola, que tu as vu tout petit, le petit Bambi qui faisait premier pas sur les terrains d'entraînement et en équipe professionnelle. Ryan Cherki, Laurent Blanc, tes projets personnels aussi, tes ambitions. Voilà au programme. Je rappelle que tu n'es plus désormais dans la Galaxy Eagle de John Textor.
Normalement, non.
Ah,
pourquoi normalement?
Il est négo.
Parce qu'on ne sait jamais, dans le foot, on ne sait jamais.
Ah oui, bien sûr.
Depuis que je suis quitté la Belgique, on n'a pas eu encore des discussions.
D'accord.
Mais je cherche un nouveau projet.
Un nouveau projet. Et pourquoi pas en France, on en parlera tout à l'heure. On va faire un débat ce soir également autour de la finale justement de Lyon face au Paris Saint-Germain. Cette question, Pierre Sage, ferait-il une erreur en titularisant Lucas Perry plutôt que le capitaine Anthony Lopez? On veut ton avis là-dessus également, Claudio. On va parler de Marseille aussi, le dossier entraîneur, dossier bouillant, prioritaire à l'OM. Avis de Kevin ce soir, Franck Hez est le coach qu'il faut à l'Olympique de Marseille. Et puis pas mal d'infos PSG. J'ai à vous donner aussi Mbappé dans le groupe pour la finale finalement et Paris active également dans le dossier Lenny Yoro. Et puis 21h45, ce rendez-vous traditionnel, le quiz de l'after. Est-ce que la paire Acherchour Bribois va tomber pour la première fois depuis le début de la saison? C'est l'enjeu, c'est la grande question de la soirée, bien sûr, ouais. Et de la semaine.
Franchement, c'est le seul quiz où il y a une équipe qui gagne tout le temps, en fait.
Non, pas du
même
tout.
Quand elle perd, elle a gagné.
Non, c'est dingue. C'est encore une fois.
Heureusement, il y a quand même un truc qui s'appelle le podcast où on peut.
Ce sont les résultats, ce sont les chiffres, monsieur Jazz.
Ok. Ce sera 21h45 avec Jérôme Thomas. Vous pourrez gagner un bomber shot. D'ailleurs, pour cela, il faut envoyer quiz au 7-32-16 pour choisir la bonne équipe surtout. 22h l'after avec Gilbert. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars, en effet, nous sommes invaincus avec Walid et on compte le rester encore ce soir, évidemment. Alors plus sérieusement, vous le savez, la France a peur. La France du football a peur. La banqueroute est là. Toujours pas de droit télé. On en parlait il y a 10 jours, on a fait des missions spéciales, 10 jours plus tard, toujours rien. Et aujourd'hui, la DNCG a envoyé une lettre au club, dis donc. Genre, méfiez-vous quand même quand vous faites vos budgets, soyez prudents.
Ah ouais?
Ah oui.
D'accord.
Oui, oui.
Ok.
Voilà.
Je l'ai pas reçu.
Non, attends, ça devrait aller, toi.
On parle de club, comment dire, okay. Tu veux
très
dire
gros, très gros club.
Voilà. Okay. Ouais. Okay. Excuse-nous. Donc on va en débattre ce soir. On aura Pierre Maes avec nous. Il a été auditionné au Sénat dans le cadre de l'enquête sur CVC. C'est un autre sujet, mais très intéressant là aussi, qui est lié au financement des clubs. Les infos à 48 heures de la finale de la Coupe de France. Mbappé dans le groupe finalement, tout comme Dembélé côté parisien. Et puis on aura un gros plan également ce soir sur la profession de recruteur.
Ah.
À l'occasion de la sortie d'un livre intéressant de
Enzo Djebali.
Enzo Djebali, vous connaissez, qui est déjà venu ici, de Génération After. Voilà, puis j'ai encore autre chose, mais j'ai oublié.
Mais c'est pas grave. Rendez-vous
Marseille,
à 22h.
Les infos de Daniel, qui veut parler de l'OM.
Daniel a plein d'infos sur l'OM.
Marseille, Saint-Etienne aussi au programme.
Et voilà, le dossier spécial Saint-Etienne. Il y a trop de choses, je suis perdu.
On est là.
Dossier spécial Saint-Etienne.
Claudio souhaite absolument, ardemment, la montée de Saint-Etienne en Ligue 1 aussi.
Oui.
Sans aucune ironie, j'ai ça.
Non, mais c'est vrai. Parce que je pense que à tout le peuple lyonnais, ça manque quand même le derby.
Oui. Bon, t'en as perdu beaucoup des matchs contre Saint-Etienne ou pas? Merci Gilbert.
Autant que joueur?
Ouais.
Non. Autant que joueur, je pense que j'ai.
Ah, il y a 1-0, il y a le fameux 1-0, le but de la tête.
But de la main.
Est-ce qu'il est là, Claudio?
Je pense pas. Je pense pas. Je pense que zéro match perdu contre Saint-Etienne.
On va vérifier quand
même. Je pense. Hein.
On va vérifier.
On va regarder ça. En tout cas, c'est sympa de l'avoir.
Jamais perdu contre Saint-Etienne.
Ouais.
Non plus.
Moi non plus.
Ah bon? Ouais.
Bon, les gars, super. On avance, on est ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle également que vous pouvez tourner la roue RMC, vous le savez depuis plusieurs jours déjà, et gagner jusqu'à 20 000 euros. Pour cela, il faut envoyer roue par SMS au 732-16, roue au 732-16. L'alerte peut tomber à tout moment. Dès que vous entendez ça, vous pourrez le... Voilà, vous inscrire. 732-16, roue. Bon, Claudio, comment t'as vécu la fin de saison lyonnaise? Bien sûr, les cinq derniers mois, c'est une pure folie. On parle de miracle à Lyon. Est-ce que déjà, tiens, question, t'étais bon inquiet, on l'imagine, quand Lyon était dernier de Ligue 1, mais est-ce que tu ne croyais pas à une éventuelle relégation de l'OL?
Je croyais pas du tout.
Ah bon?
Ah non, pas du tout.
Pourquoi?
J'étais inquiet, mais je croyais pas du tout parce que l'OL déjà, c'est un grand club. Après, c'est vrai que le moment. C'était pas très bien parce que ils arrivaient pas à gagner des matchs, mais à la descente je croyais pas du tout.
Oui, bien sûr, malgré la
t'étais dans l'équipe John Textor quoi.
Oui, mais je croyais pas. Je voyais moi je regardais pas mal de matchs au début. C'est vrai qu'ils a eu aussi de malchance, il y a des matchs qui étaient pas bons du tout, qui méritaient perdre, mais il y a d'autres matchs qui méritaient pas perdre. À un moment donné j'étais sûr que la roue elle allait se tourner. Et je pense que depuis fin janvier, oui, la roue, elle est tournée au bon endroit.
Je pense qu'il y avait aussi des infos sur le recrutement de janvier qui pouvait redynamiser tout ça aussi.
Oui. Mais ça, c'était obligé. Bien sûr, comme j'étais en Belgique à cette époque-là, je savais que Lyon, ils allaient taper fort sur le recrutement. Et je pense que c'était le cas. Ils ont fait des pioches très intéressantes. Je vais citer juste Matic. Pour moi, c'est lui qui a tout adressé. Lui, tout seul,
ah ouais.
Il a mis en place le vrai l'OL.
D'accord. Il y a Pierre Sage aussi qui est arrivé. Que tu as connu, Pierre Sage, qui entraînait les U16 à Lyon, quand tu étais adjoint de l'équipe première. Sa trajectoire, sa réussite incroyable, là, est-ce que tu l'imaginais? Personne l'imaginait, je pense. Est-ce que tu voyais les qualités pour arriver à s'imposer et à redresser la situation?
Écoutez, la réussite, déjà, on dit qu'il faut la provoquer. Je pense que lui, avec les autres membres du staff, ils font encore un travail magnifique. Personne n'y croyait. Et lui, il a mis tout le monde dans la poche en disant qu'il était capable de redresser l'OL. Et c'est ça qu'il a fait.
Bon, parle-nous de John Textor, tu le connais bien. C'est lui qui t'a nommé aussi à Botafogo pour assurer un bon intérim. Puis à Molenbeek, ça s'est moins bien terminé. Molenbeek, tu étais limogé en février dernier. Molenbeek est finalement descendu en division de Belge. Il est comment? Est-ce qu'il est comme celui qu'on voit face au micro, très américain, l'américaine, toujours hyper enthousiaste? C'est ça, c'est,
oui.
C'est ça qu'il est
au quotidien? Il est toujours comme ça.
C'est vrai?
Toujours, ouais, toujours comme ça. C'est vrai que ma relation avec lui, elle était amiable. C'est quelqu'un que j'apprécie et je pense que c'est la même chose de son côté. C'est quelqu'un qu'on n'a pas échangé énormément. À quelques fois qu'on a échangé, on a passé des bons moments, on a rigolé, on a parlé du foot parce qu'il faut savoir que lui, c'est quelqu'un qui aime le foot. Il aime le foot.
Il aime et il connaît le foot.
Ça, c'est autre chose.
Autre chose.
Ouais, mais je pense
qu'il est entouré.
Ouais, il aime le foot, il est bien entouré, il connaît aussi le foot. Est-ce qu'il les connaît à 100%? Ça, je suis incapable de vous dire, mais c'est quelqu'un qui adore le foot.
C'est lui, à l'époque où tu vas à Botafogo, c'est lui directement qui vient te voir et qui te demande d'aller dépanner à Botafogo, ou ça s'est fait via d'autres intermédiaires?
Ça s'est fait avec Vincent Ponceau à l'époque. C'est lui qui m'a appelé parce que j'étais en vacances au Brésil, et c'est Vincent Ponceau qui m'a appelé pour aider Botafogo à ce moment-là.
Bon, d'accord. On va faire une première pause. On a plein de questions à te poser sur les joueurs lyonnais que tu as vu passer, de Cherki. Est-ce qu'il peut encore progresser? Est-ce que tu penses qu'il est au niveau auquel il doit être, toi qui l'as connu au plus jeune âge? Barcola, Lacazette également. Est-ce qu'il doit rester à Lyon, Lacazette, selon toi? Absolument. On va en débattre. Et pour parler, c'est des coachs que tu as connus aussi à l'OL. Tu en as connu 4 en tant qu'adjoint. Silvinho, Garcia, Boss et Laurent Blanc, tu me diras.
Bruno Genesio,
bien sûr.
C'était le premier.
Tu me diras avec lequel tu as préféré travailler. D'accord? T'as 2 minutes pour réfléchir, Claudio.
Elle est pas facile, la question.
On en parle dans un instant avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Claudio Cachapa et Walid Acharchou. Vous écoutez RMC, c'est Génération After.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Jimmy Brown, avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour et notre invité exceptionnel ce soir dans Génération After. On est heureux de l'accueillir, Claudio Cachapa, international brésilien, 6 fois champion de France, vous le savez, vainqueur de la Coupe de la Ligue, hein, après 28 ans d'attente en 2001, on s'en rappelle, et puis une chevauchée telle Beckenbauer. On en parlera tout à l'heure peut-être, hein, le but de la victoire et du titre. Hein. Je crois que c'est ton meilleur souvenir d'ailleurs, carrière.
Un des? Ah oui.
D'accord. Bon, tu nous diras quels sont les autres parce que c'est intéressant.
Ça nous intéresse.
On va parler d'une petite génération quand même, hein, qui a fait 7 fois champion de France consécutivement. Tout en apprécie. D'ailleurs, beaucoup de messages sur le chat YouTube. Bonjour Claudio, super invité, nous dit Kireto. Claudio, je t'aime, nous dit Tommy Néron. Que de grands souvenirs avec Claudio. Nous aussi, on a un grand souvenir avec toi parce que tu sais que l'After est né un 4 avril 2006. Est-ce que tu connais cette date?
Quand?
4 avril 2006.
4 avril 2006.
C'est pas un bon souvenir, hein?
4 avril.
C'est pas un bon souvenir. Quart de finale de Ligue des Champions.
Brassard. T'avais le Brassard.
Titulaire.
Oublie, c'est pour ça que j'ai oublié.
Terrible, quart de finale contre le Milan. Ouais, Kevin?
C'est vrai que c'est un soir mémorable pour l'After, mais sûrement pas pour toi, parce que le visage que tu viens de faire, là, c'était vraiment un visage de douleur.
18 ans après. Hein.
Ah ouais. Oui.
18 ans après.
Ah ça, oui, ça fait mal, toujours. Ça fait toujours mal.
Pippo Inzaghi.
Ouais.
Tu dis quoi quand tu le vois, Inzaghi?
Rien du tout.
C'est un cauchemar, ce mec.
Il m'a fait mal.
C'est ta défaite la plus douloureuse, celle-là?
Ah, celle-là et l'Ajax aussi. Oh.
Le PSV,
c'est...
Avec Nilmar, le pénalty de Nilmar.
Terrible aussi.
Bon, alors, parlons un peu de...
Vas-y,
Kevin.
J'ai une question pour Claudio. Toi qui a quand même travaillé dans une galaxie, hein, la galaxie Textor avec...
Eagle.
La galaxie Eagle avec Molenbeek notamment, mais surtout Lyon et Botafogo. Je t'avoue que nous qui sommes de l'extérieur, j'ai toujours du mal en tant que romantique dans le foot, même si je travaille aussi dans le foot et je sais que c'est pas toujours romantique, de comprendre comment un président peut avoir 3 clubs, même si là c'est vraiment 3 clubs différents pour le coup, hein, au Brésil, un en Europe et puis un plus petit qui est en Belgique, hein, avec tout le reste.
Il y a un quatrième que Crystal Palace.
Oui. Palace aussi. Oui. Il n'est pas majoritaire.
Il n'est pas majoritaire.
Mais là, c'est vraiment.
Mais il n'est pas loin.
Oui.
Il n'est pas loin. Mais voilà. 40%, surtout ces trois-là. Ouais. Comment toi, qui es de l'intérieur, comment tu vis ça? T'as fait en plus
la multipropriété, quoi. En
t'as,
fait,
t'as vécu ces trois clubs dans une courte période de temps. Comment tu peux nous dire ton sentiment de l'intérieur, voire même ton sentiment d'ancien joueur? Comment tu te serais vu jouer comme ça au Brian qui passe d'un club à l'autre? C'est particulier quand même.
C'est pas facile. C'est pas facile parce que, comme j'ai dit, j'étais en vacances. J'étais en vacances au Brésil. Il me restait encore 5 jours de vacances et avant son Ponceau qui m'appelle, il dit, il faut que tu ailles à Botafogo. Tout de suite, j'ai pas réalisé. J'ai dit, mais comment ça? Je suis en vacances. Je suis pas.
Tu restes au Brésil, tu bouges pas.
Ah oui, je suis au boulot. Non, John, ils veulent. Toi, tu ailles donner un coup de main là-bas parce que ils ont besoin. Le coach, il est parti, tout ça. Ok, je fais Botafogo, je fais 4 matchs. Et 15 jours après, j'arrive à Lyon. Je commence à bosser normalement, autant qu'adjoint de Laurent Blanc. Deux jours après, texto qui vient, il me dit, écoute, toi, tu pars à Molenbeek. J'ai dit, mais tu viens d'arriver. Je pense que le mieux, c'est de rester ici, de continuer mon aventure ici. Et après, on verra. Il a dit, non, pour moi, c'est toi l'homme de la situation. Il faut que tu ailles. Et moi, j'ai dit, parce que en plus, j'avais envie de coacher, d'être numéro un. Je me suis dit, c'est l'opportunité que j'attendais. Et tout de suite, j'ai pris mes valises. Et allez, je suis parti. Trois jours après mon arrivée de Botafogo à Molenbeek. Et je suis arrivé quatre jours avant le début de saison.
Mmh. Début de championnat.
Début de championnat.
Quatre jours avant.
Quatre jours avant et contre Bruges. Premier match. Ouais. L'histoire, 0-4 à la maison. C'est normal. Je viens d'arriver, je connaissais personne.
Et puis c'est Bruges en face.
Les joueurs, et en plus c'est Bruges. Alors c'est pas facile parce que John, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait parce que moi j'ai vu John à Lyon, je l'ai rencontré à Rio avec Botafogo et je l'ai rencontré aussi à Molenbeek en Belgique. Ça veut dire que
ils sont deux, tu penses pas qu'ils sont deux?
C'est pour ou même trois parce que c'est même deux, c'est pas évident. C'est compliqué, je pense que c'est compliqué. Après, il a des gens, des personnes qui lui le faire confiance et quand tu as des gens compétents. C'est ça le plus important, qui tu peux faire confiance, ça peut marcher, mais
ouais, mais c'est parce qu'il a pas mis de la compétence partout. Hein, quand on voit notamment avec Gauthier Ganet à Molenbeek, donc là c'est mieux à Lyon depuis janvier, mais ça doit pas être évident de trouver des gens compétents et de confiance partout.
Ce qui est très difficile déjà dans le foot et je pense peu importe le niveau, c'est déjà d'arriver à te faire à l'environnement, à la culture d'un club. Mais quand t'as trois clubs, sans même compter Crystal Palace, complètement différents, la ville de Molenbeek n'a absolument rien à voir avec Lyon. On parle même pas de Botafogo et de Rio, qui est dans une autre galaxie footballistique, et qu'un seul président, même s'il a une équipe autour de lui, on sait que gérer un club de foot, c'est très compliqué. Et en gérer trois ou trois et demi, dont un en première ligue, en plus, le quatrième. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment tu peux arriver à le faire. Maintenant, on voit qu'en tout cas, à Lyon, il a su prendre le virage. Et de toute façon, diriger, c'est aussi surtout déléguer et choisir les bonnes personnes pour travailler avec toi. Mais c'est quand même difficile. Et même pour un entraîneur, vit un joueur. C'est-à-dire, alors t'es là, mais là, tu pars à Molenbeek. Sachant que quand même, quand t'arrives dans un nouveau club, je pense qu'un entraîneur comme toi, qui doit être consciencieux, il faut quand même connaître l'effectif, connaître l'environnement, connaître le championnat, connaître les adversaires, connaître la manière de jouer, etc. C'est quand même pas football manager non plus, quoi.
Mais tu vois, il y a une part d'instinct, mais il y a quand même tu dis de bien s'entourer, mais il y a une part d'instinct quand même, parce que finalement, à Lyon, c'est lui qui choisit Pierre Sage. C'est Textor lui-même qui dit à Pierre Sage, tu vas prendre l'équipe, etc. Donc, il y a eu quand même ce truc-là de faire le choix, de dire, voilà, j'ai rencontré Pierre Sage, on a discuté tous les deux, j'ai senti qu'il avait quelque chose.
Je rajoute quand même, excuse-moi, Timmy, je te coupe, parce que, à Lyon, ça s'est bien passé à cette période, mais c'est aussi à cette période que Botafogo avait tant de points d'avance et finalement a perdu le championnat. C'est la même période, c'est le même président.
Ouais, donc, les supporters de Botafogo, ils peuvent te dire, à ce moment-là, il était peut-être un peu plus concerné par la situation lyonnaise pour essayer de les faire rebondir. Dire et peut-être que ça a coûté le titre à Botafogo.
C'est le problème de la mutualité.
Est-ce que c'est la vérité?
Il a fini la saison. C'était
non, parce qu'on se rappelle le lendemain, il était venu avec une nouvelle casquette et une nouvelle veste. Le lendemain, on se réveillait, on l'avait vu énervé après
un au Brésil sur l'arbitrage, etc. Il a été auditionné par des politiques.
Lui, il stigmatise la corruption généralisée.
Mais sur le projet sportif de Botafogo, ça n'avait pas bougé. L'entraîneur avait fini la saison. C'est dur de dire.
J'en ai qu'on parle également de Claude Cachapa, l'adjoint. Tu as connu une longue période d'adjoint à l'OL, équipe professionnelle, bien sûr. Tu l'as dit, Bruno Genesio, Silvinho, c'était court, ton compatriote.
Trois mois.
Rudy Garcia, Peter Bosch, je crois que Kevin voudra aussi en parler. Laurent Blanc aussi. Peter Bosch. Voilà. C'est ça, merci. Lequel, si tu dois en sortir, lequel t'as plus marqué dans sa façon de travailler, dans sa personnalité, ses idées de jeu, son charisme aussi, peut-être?
Écoutez, moi, j'ai travaillé avec ces cinq coachs. J'ai appris avec les cinq. Parce que je pense que dans la vie, tous les coachs, ils ont quelque chose à me donner. Et moi, j'ai pris tous ceux qu'il fallait prendre. Après, entre Bruno, Silvinho, Garcia, Rudy, Peter et Laurent, c'est vrai qu'avec Peter, il y avait quelque chose de différent. Ah, parce que Pita, il a amené quelque chose de différent. Parce que quand il est arrivé, deux jours après ou trois jours après, on a fait une opposition 11 contre 11. Sans aller partir en stage ou quoi. Deux jours après, 11 contre 11 opposition. Mais moi, je me suis dit, ce mec-là, il est fou. Il est fou.
Pourquoi?
On n'est pas habitué à ça. Parce qu'avec Brandon, non. D'abord, on faisait les tests. C'est ça. D'abord, 5-6 jours de mise en place, de travail physique. Avec Laurent, pareil, Rudy et Silvinho. Et lui, non. Lui, deux jours après, opposition.
Il expliquait pourquoi il voulait déjà voir dans l'opposition qui sortait du lot, comment les joueurs se comportaient.
Comment il avait fait l'opposition.
Mais c'était sa manière de travailler. C'était sa manière de travailler pour lui.
Du jeu, l'opposition.
Oui, pour lui, on n'avait pas besoin de passer 7 jours, 10 jours avant d'attaquer pour l'opposition.
C'est très drôle parce que moi, j'ai une anecdote là-dessus. J'ai travaillé donc aux Pays-Bas, mais surtout avec un entraîneur portugais en France, Carlos Secretario, qui est un ancien international, qui a joué au Real et à Porto. Et le premier jour, on était quand même en National 2, donc les joueurs arrivent avec les chaussures, avec les baskets. Et il me dit, parce que moi, je traduisais un peu, il me dit, mais pourquoi ils ont les baskets là? Je dis, bah, c'est la reprise, coach. Non, il n'y a pas de basket avec moi. C'est crampon pour tout le monde et qui prévoit de jouer au foot, hein. Et dès le premier jour. Et en fait, c'est des mentalités qui sont différentes. C'est une façon d'entraîner qui est différente.
Oui, bien sûr.
Avec cette fameuse périodisation tactique où les Hollandais l'appellent autrement, mais entre guillemets, où il y a beaucoup de ballons. Et je l'avais dit tout de suite vous vous rappelez quand Peter Boss est arrivé, ce que j'ai dit attention. Peter Boss, excellent coach. Et il le montre encore cette année.
Pourquoi ça n'a pas marché?
Parce que la mentalité française est différente.
Je pense que il y a eu beaucoup de changements. Tout de suite. Et les joueurs, ils étaient pas prêts à ces changements-là. Je pense. Parce que j'étais dedans. Et Peter, c'est quelqu'un que, c'est devenu un ami, hein. Je suis pas en train de le défendre ici, mais c'est devenu un ami. C'est quelqu'un de très compétent.
C'est un immense gâchis.
Parce que nous, sur le terrain, à travers la télé, ou même quand on allait au stade, nous, on l'avait suivi à l'Ajax, quand il fait finale de l'Europa League. À Dortmund, au début, c'était très bien. Ça s'est un peu gâté au fur et à mesure. Au Bayer Leverkusen, notamment. Et quand il arrive, nous, on se dit, purée, c'est un super choix pour l'Olympique Lyonnais. Et on va voir du jeu à l'Olympique Lyonnais, et puis une progression, et puis des résultats. Et sur le terrain, on voyait très, très peu de choses. Il y a par moments, on en a vu, hein, quand ils ont fait quart de finale contre West Ham d'Europa League en battant Porto notamment. Mais l'année d'après, moi j'allais voir les matchs au stade, c'était très très compliqué. Et là, quand tu vois ce qu'il arrive à faire au PSV, dis-nous un peu, Claudio, c'est quoi qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné? Parce que toi, t'étais dans le staff.
Est-ce que toi, t'as un regret en tant qu'adjoint? Parce qu'on dit que t'es souvent le relais avec les joueurs, etc., de pas avoir peut-être essayé de forcer leur nature sur sa méthode, de les convaincre qu'il allait dans la bonne direction, tu vois?
Nous on a tout tenté parce qu'il y avait Rob et moi en tant qu'adjoint et Ludo aussi. Ludovic
Julie. Mas.
Non, Julie.
Oui, Julie.
On était trois adjoints. OK. Et je pense que c'est ça pour moi, il faut pas chercher plusieurs choses. Pour moi, la plus importante, c'est que les joueurs, ils ont pas compris. Ils arrivaient pas. Et moi, j'étais proche des joueurs. Et ils n'arrivaient pas, ils ne comprenaient pas.
Ils te le disaient, ça, toi?
Oui.
On ne comprend pas la méthode?
Ils ne comprenaient pas.
Mais parce qu'ils ne prenaient pas de plaisir, parce qu'ils ne progressaient pas.
C'était trop exigeant, c'était trop exigeant.
Aussi. C'est pas que ça. Les joueurs, ils sont habitués.
C'est un choc de culture.
Voilà. C'est un choc de culture.
Mais Claudio était dans le staff, mais moi, j'y ai passé 7 ans, donc je le connais. Et je l'ai dit ici dans l'after. J'ai dit, attention, très bon choix. Mais est-ce qu'il va arriver à emmener le vestiaire lyonnais, les jeunes lyonnais, avec une formation française qui est très différente de ce qui se fait aux Pays-Bas? Peter Boss, c'est un dogme. C'est quelqu'un qui a appris le football, qui sait apprendre le football, mais il faut que tu aies l'esprit ouvert. Pourquoi les Français, quand on va à l'étranger,
concrètement, ça veut dire quoi en fait?
C'est simple, je te le dis, quand tu es un Français, tu vas à l'étranger jouer au foot, que ce soit aux Pays-Bas pour Sébastien Haller, que ce soit en Allemagne pour tous les Français qui réussissent en Allemagne, tu dois être ouvert puisque tu n'es pas chez toi. Mais quand quelqu'un vient chez toi, tu ne vas pas t'apprendre ce que toi tu sais déjà, alors que lui a peut-être d'autres choses, et quand souvent les entraîneurs apprécie parce que un entraîneur il est plus ouvert à, à l'apprentissage aussi lui-même pour progresser lui-même, mais le joueur considère, les joueurs qui ont beaucoup d'ego considèrent que tu vas pas leur apprendre. Et à partir du moment où tu changes tout, de la méthode d'entraînement depuis le premier jour jusqu'au troisième où tu fais une opposition, jusqu'à toute la préparation où il y a beaucoup plus de ballons, où tu as l'impression de pas avoir assez couru, tu as l'impression de pas être prêt, alors qu'au final c'est juste une manière différente de travailler, mais il faut être ouvert au changement.
C'est tout à fait ça. Et aussi, de temps en temps, comme en Angleterre, mercredi, il n'y avait pas d'entraînement, c'était off. Ça veut dire qu'on s'entraînait lundi, mardi. Des fois, le mercredi, c'était off. Il n'y avait pas d'entraînement.
Il a des regrets ou pas de son passage à Lyon? Il pense qu'il aurait pu, qu'il aurait dû mieux faire?
À mon avis, je pense que oui. Parce qu'il ne voulait pas partir. Il voulait rester, il voulait continuer son aventure ici. Parce que Putain, c'est un gagnant. C'est un mec qui est venu, qui est débarqué à Lyon pour gagner des titres. Et il a échoué, dans sa tête il a échoué. Mais là aujourd'hui je suis très content pour lui. Il a prouvé qu'il est un très très bon entraîneur.
Pour toi c'était le meilleur entraîneur que t'as connu en tant qu'adjoint à Lyon?
Dire le meilleur, parce que moi j'ai pris pas mal de choses de Peter, mais j'ai pris pas mal de choses des autres aussi. Ouais. Pour moi c'était quelqu'un qui m'a appris d'autres choses que je connaissais pas.
Je vais retourner ma question alors. C'est pour toi le plus gros gâchis?
À l'OL?
À l'OL? En tant qu'entraîneur?
Oui, je pense. Pour moi, il fallait pas le jouer.
Et dans un instant, on va te demander qui est le plus mauvais avec qui t'as bossé.
Non, c'est bon,
Il n'y a pas eu des plus mauvais.
Mais c'est aussi des personnages différentes. Rudy Garcia est un homme qui est aussi compté à Lyon, qui a amené l'OL aussi en demi-finale de Ligue des Champions, qui est une personnalité au quotidien. On sait que c'est pas toujours facile de suivre Rudy Garcia, quand même, c'est un caractère.
Ah, c'est un caractère. Ah oui. Il faut connaître. Mais, lui, depuis que je suis revenu à l'OL autant qu'entraîneur, moi j'ai vécu les meilleurs moments, c'était avec lui. Déjà en allant en demi-finale de la Ligue des Champions, c'était quelque chose que j'ai hâte, j'ai envie de revivre.
Et dans deux jours, Lyon vivra une finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. On va en parler dans un instant et du choix du gardien qui fait débat à Lyon, qui va faire débat ici ce soir. Lucas Perry plutôt que Anthony Lopez, certainement le choix de Pierre Sage. Tu me diras ce que tu en penses aussi, alors que voilà, Anthony Lopez, tu le présentais 8 saisons en tant que titulaire à l'OL, qui a peut-être joué son dernier match le week-end dernier en Ligue 1 sous ce maillot. Reste avec nous, c'est Génération After avec Jimmy, Kevin, Walid et notre invité Claudio Cacciapa. C'est Génération After. RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain. Avec Kevin Diaz, Walid Acharchour, Jimmy Brown et notre invité Claudio Cacciapa, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, formé une paire, l'une des plus grandes paires, hein, je pense, d'Axio en Ligue 1, Chris Cacciapa, exceptionnel. Kevin, t'es d'accord avec ça?
Ouais, c'était top. C'était top, il y avait un relanceur.
C'est vrai, faudrait faire un truc comme ça, un jour, un débat. Les plus grandes paires du 21e siècle en Ligue 1.
Oui, mais on avait fait les chapeaux.
C'est vrai qu'on avait fait ça, ouais.
Je sais plus si Claudio, on l'avait mis chapeau 1 parce que c'était au 21e siècle, donc c'était peut-être à cheval entre les deux siècles.
Ah, il arrive en 2001.
Donc on l'a mis chapeau 1.
Chapa, Thiago Silva, Marquinhos.
Ouais, voilà,
c'est ça. Il va chercher dans ce. C'est les Brésiliens, les meilleurs charnières.
Il y a un truc qui est bien, c'est que là, c'est le Brésil, mais c'est le Brésil qui fait mal, quand même. Chris Cacciapa, je pense que. Il y avait moyen de marcher sur les pieds des attaquants quand même, non?
Non, on était gentils.
Voilà, c'était le good cop, hein, ouais. Claudio. Hein. Ouais. Le bad cop, c'était justement.
On était gentils.
Il y avait des crampons.
Quand il y allait, il faisait pas semblant.
Ah, des dents comme ça.
J'essaye de dire aux jeunes défenseurs qu'ils doivent être méchants, mais ils ont du mal à comprendre.
Mais aujourd'hui, c'est pas facile, hein, parce qu'avec les caméras, tout ça, aujourd'hui.
Tout se voit maintenant, t'as raison.
Ah, tu pourrais plus jouer.
Tu mets des coups de savate comme ça sur le corner.
Oui, je pouvais, mais ça va. Plus compliqué.
T'avais une technique sur corner ou pas? Là, je parlais une fois avec Willy Sagnol qui me disait, moi, c'était simple sur corner tout le temps. Discrètement, je mettais mon pied sur le pied de l'attaquant, sur les orteils. Classique?
Non, j'avais pas de technique. Non, j'étais là. Je prenais l'élan.
C'est tout.
Ouais, tu faisais pas le premier gros duel comme tous les défenseurs d'avant en disant on va essayer de venir chatouiller la cheville
regard à celui qui est devant moi quand même.
Chatouiller la cheville du numéro 9, tu sais que sur le premier contact t'as pas le carton jaune, mais à la troisième minute, non, tu faisais pas ça?
Ouais. Défensivement, oui, bien sûr. Tous les défenseurs, à l'époque, on faisait, mais là, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ouais. Mais avant, oui.
Alors, c'était pas vu, pas pris. Alors, Lyon a une finale de Coupe de France, important à jouer samedi soir. Ce sera à Lille, bien sûr, sur RMC aussi, face au Paris Saint-Germain, bien sûr. Alors, il y a une tendance forte avant cette finale. Pierre Sage aurait décidé de titulariser Lucas Perry, comme il l'a fait en huitième, en quart et en demi de Coupe de France. Est-ce qu'il ne permettrait pas à Anthony Lopez, un numéro 1 depuis 11 saisons, j'ai dit 8, c'est 11 saisons, à Lyon, de finir en apothéose, peut-être, puisque a priori, je dis bien, c'est sa dernière saison en tant que titulaire, voire au club. Est-ce que Pierre Sage a fait le bon choix? Vous nous appelez pour en débattre au 32-16, bien sûr. Je précise que tu connais bien Lucas Perry. C'était ton gardien à Botafogo. On dit le plus grand bien, ce gardien, qu'on connaît pas encore très bien en France. Il a fait que 3 matchs pour l'instant, avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce que les compliments sont justifiés? Est-ce qu'il est un futur très bon gardien?
Je pense que c'est justifié. Parce que c'est un très très bon gardien, très belle personne. C'est un gardien qui fait presque 2 mètres. Ça veut dire que les sorties, les ballons aériens, il fait mal. Dans sa cage aussi, c'est le réflexe, tout ça. C'est un gardien qui peut, et je pense qu'il va apporter beaucoup à l'OL aussi. Après, j'ai envie de rendre aussi un petit hommage à Anthony Lopez, parce que faire 11 saisons autant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, c'est pas pour tout le monde.
Et avec une régularité.
C'est pas pour tout le monde. Et je pense que, je sais pas, vous avez parlé de dernier match. J'espère pas qu'il va quand même faire son dernier match en étant sur le banc. Parce que ce garçon-là, il mérite mieux que
toi,
ça.
Toi, tu penses que ce serait bien pour l'occasion, pour cette finale, de mettre dans le but Anthony Lopez plutôt que Lucas Perry?
Si c'est son dernier match. Si je sais que c'est son dernier match,
grande chance.
Moi, je vais le faire jouer.
Votre avis là-dessus?
Si je sais. Mais comme là, on ne sait pas. Après, c'est pas faux non plus. Hein. Lucas Perry, c'est lui qui a joué les trois derniers matchs de la Coupe. C'est normal.
Mais il sera titulaire la saison prochaine. Ouais. Mais c'est bon. Je prends le but la saison prochaine.
Okay, mais si je sais qu'Anthony, il va partir, moi, l'audio, je le ferai jouer.
Ouais, mais c'est parce que t'es un Lyonnais, et là c'est aussi la
sentimentale.
C'est la fibre lyonnaise qui parle, mais à partir du moment où ça a été pour moi assez clair que Lucas Perry jouerait, c'est quand même le troisième gardien de l'équipe du Brésil, il joue la Coupe de France, il s'est qualifié en finale, bah il joue la finale, sachant que en plus Anthony Lopez a quand même eu un dernier match au Parc OL extraordinaire, avec cette victoire à dernière minute, avec cette qualification pour une compétition européenne. Tu vois, s'il en prend 5 contre le PSG, je trouve que pour un dernier match, c'est un peu moins classe que là où t'as fait la fête devant ton public. Et surtout, c'est quelque chose qui, je pense, est convenu avec Lucas Perry et Anthony Lopez, comme quoi le Brésilien joue la Coupe de France, c'est la finale. Voilà, il joue sa finale, ça a été sa compétition cette saison.
Pour la Copa América, ils ont pris Bento, mais il était dans les dernières listes, donc il sera pas.
Après, il a pas joué depuis.
Voilà, il sera pas le troisième gardien.
Il a pas joué depuis le 2 avril dernier.
Du Brésil. Maintenant, moi, je suis sur la même ligne que Kevin. Alors après, Claudio, il a peut-être une attache et un respect des légendes que moi peut-être je n'ai pas. C'est le football, il est peut-être méchant, il est peut-être cruel, mais l'OL et Pierre Sage n'est pas là pour donner un jubilé à Anthony Lopez.
Mais c'est pas une pipe, Anthony Lopez.
Mais c'est-à-dire que faire plaisir parce que Anthony Lopez représente énormément de choses à l'Olympique Lyonnais, je suis pas sûr que ce soit là.
Mais aussi parce que c'est un très bon gardien.
Après, je peux terminer, Nico?
Vas-y.
Non, mais par rapport encore une fois à tout ce qu'il a réalisé très très bien, bravo Anthony Lopez. Maintenant, si l'Olympique Lyonnais est en finale de Coupe de France, c'est aussi grâce à Perry. Il y a eu aussi des efforts financiers faits pour que Perry arrive en janvier. Il y a aussi un processus où ils veulent le mettre l'année prochaine. Il a fait un très gros match contre Lille, dans un match où Lille était en très très grande forme, où il a permis à l'OL d'aller en quart de finale. En quart de finale, il fait une très grosse séance de tir au but contre Strasbourg, contre Valenciennes. Il a pas eu grand chose à faire, mais en tout cas, il a tenu son rang. Moi, je sais pas, mais je trouve que Perry, par rapport à tout ce que vient de dire Claudio, il remplit toutes les cases pour tenir les cages de l'Olympique Lyonnais. Et moi, je trouve que Pierre Sage, s'il le fait, il a beaucoup de cran, et c'est ce qui a permis, je pense, moi, à l'Olympique Lyonnais, sur la deuxième partie de saison d'être là où ils sont, parce que il a su mettre Tolisso sur le banc quand il le fallait, il a su avoir une vraie émulation de son groupe, et ça passe c'est passé par cette gestion du numéro 1, du numéro 2. Et moi je pense qu'il ne doit pas se désavouer et mettre Perry, parce que Perry est mérite, et je pense que Perry à l'heure actuelle est un meilleur gardien que Anthony Lopez.
Moi dire ça, je pense qu'on ne peut non, pas
moi,
le juger.
Moi je le pense, c'est mon avis. Oui. C'est dire ça, c'est pas oublier tout ce qu'Anthony Lopez a fait et de dire que c'est une pipe. Non, c'est un bon gardien, mais moi je pense que Perry est un meilleur gardien actuellement que Lopez.
Moi je suis pas d'accord avec toi, parce que je pense qu'on peut pas juger Perry pour l'instant sur ce qu'on a
vu. Moi en tout cas sur ce que j'ai
vu. Contre Valenciennes, tu le disais, ils ont gagné 3-0. La séance de tir au but, il a sorti un tir au but de Lens qui est très fort. Sinon, il a sorti un tir au but contre. C'est ça la
saison. Et son match contre Lille, il avait été très très bon.
Ok, ça, c'est, il a fait 3 matchs. En face, t'as 489 matchs avec l'Olympique Lyonnais. T'as une expérience. Tu vas jouer une finale qui est un match très important. Vous disiez.
Il y a un mois et demi, on a pris 4 contre le PSG, Lopez. Sans Mbappé, sans Dembélé. Moi, je te dis que l'envergure.
Oui, c'est, pas, ça, c'est pas un argument. Non, l'autre, il a joué Valenciennes, Strasbourg. Et oui, évidemment, et il a eu des meilleurs résultats que lui. Contre le PSG, ça veut dire que toi, tu penses que si Perry là, tu vas faire. Si t'as Perry dans la cage, tu vas faire clean sheet.
Je pense que Perry est aujourd'hui, dans ce qu'il dégage, de sur le terrain et notamment dans sa
après
faculté
3 matchs, qu'est-ce qu'il dégage pour l'instant
à faire des arrêts, je trouve que Perry me dégage plus de sérénité, c'est mon avis. Et après, si Pierre Sage le fait,
il
n'est pas fou, il ça le voit à l'entraînement. Et puis encore une fois, je vais pas te dire les échos que j'ai notamment à l'entraînement par rapport les qualités de Perry, encore une fois, impressionne non mais impressionne le groupe,
d'accord,
mais c'est la c'est non, mais c'est qui soit
gardien numéro 1 la saison prochaine, je pense que comme tu le disais,
ils ont pas plaisir à Perry, ils ont pas du tout,
c'est pas le sujet, mais l'argument de dire il a joué le 8 le quart, la demi. Je vous rappelle, Nantes avec Camboiré, il avait mis Descamps sur toute la compète. En finale, il a mis la fronde. Pourquoi c'est pas pareil?
Je t'explique. C'est pas pareil parce que aujourd'hui, à Lyon, on a bien compris quand même que l'objectif de Textor ou l'objectif de la direction, c'était de préparer l'après Anthony Lopez quand tu prends un gardien numéro 3 de l'équipe du Brésil au moment où gardien de Botafogo, quand même un gros club brésilien. Donc à partir de là, tu lui dis, par contre, tu viens, il y a un numéro 1, c'est une légende du club, c'est un mec qui est là depuis 11 ans, il va finir la saison, mais tu vas jouer la Coupe de France.
Mais que tu lui donnes la Coupe de France, Kev.
C'est pas non. Tu vas jouer la Coupe de France, c'est pas huitième, quart, demi, et tu reprends, tu laisses ta place. Non. Tu vas être le futur de l'Olympique Lyonnais, c'est huitième, quart.
Le futur, il viendra en août.
Non, mais non, les gars, la finale, ça se joue. Tu l'as gagné. T'as gagné le droit
de jouer. Si je suis là, c'est qu'il sera numéro 1 la saison prochaine, qu'il la joue pas la finale.
Écoutez, si je suis Walid,
apparemment, Lucas Perry impressionne à l'entraînement. Peut-être même, selon beaucoup, il est meilleur que déjà qu'Anthony Lopez.
Moi, je le pense, c'est mon avis.
Pourquoi il a pas joué cette saison?
Mais parce que encore, mais moi, je vais aller plus loin.
Allez-y,
moi, jouer.
Parce que on est juste dans le respect de la légende.
Moi, je vais aller plus loin.
La remontée à la sixième place, c'était Lopez dans la cage.
Moi je vais aller, enfin le nombre de buts si tu veux on les fait, on peut les faire. Après il est pas le seul responsable, parce que la défense centrale, pour moi,
c'est pas
une progression à avoir sur l'an prochain. Donc je vais être honnête sur Anthony Lopez, mais les frappes à 25 mètres que tu prends à chaque fois et que il se fait lober, il y en a énormément cette saison. Mais poursuivre ton raisonnement.
Bah oui.
Moi je vais te donner mon sentiment. C'est pas la vérité, je vais donner mon sentiment. C'est que je pense que déjà Lopez joue parce que c'est Lopez. C'est-à-dire qu'on va pas le brusquer. Il vient d'arriver en janvier. On va lui faire une petite sortie. On va le respecter par rapport à tout ce qu'il a fait à l'OL. Si on doit juger, je pense, moi, la valeur intrinsèque à l'instant T, Lopez, il ne joue pas sur la fin de saison. C'est mon avis. C'est pas une information.
Si donc déjà,
je pense que ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait dans les règles, l'Olympique Lyonnais. Et je répète, si Pierre Sage, parce qu'on le sait pas encore, c'est une info, mais on va avoir la confirmation samedi. Si Perry, il est pas fou. Il va se donner toutes les chances d'aller gagner un titre qui échappe à l'Olympique Lyonnais depuis 2012.
Personne dit ici que Luca Perry est nul. Évidemment que c'est pas le sujet. Non, mais tu dis si Pierre Sage prend cette décision. Évidemment, oui. Il a deux bons gardiens. Il a statué entre deux bons gardiens.
Parce que toi, tu dis, on sait pas qui est le plus fort. Si Pierre Sage, il met Perry, c'est qu'à un moment donné, c'est une analyse. Il a eu une analyse sur le match.
Alors, il aurait dû aller au bout de la logique. Quand il a remonté au classement, il aurait dû mettre Perry. Donc, c'est-à-dire que Lopez, il les a aidés à remonter. Ils étaient relégables. Ils sont revenus. Anthony Lopez, chez les supporters lyonnais, et dans beaucoup de médias, on est toujours, pareil, dans beaucoup d'analystes, Lopez, on est toujours là pour ses enterrements, jamais pour ses mariages. Quand il fait des bons matchs, Lopez,
très bien,
personne ne dit. Et dès qu'il fait un truc pas bien, quand il prend une frappe de 25 mètres, on dit, c'est toujours pareil, Anthony Lopez, il prend des cartes rouges, il fait des mauvaises sorties, c'est trop facile. S'il a fait 11 ans à Lyon, les gars, c'est pas rien.
Mais Lopez, c'est un super gardien.
Tu fais 11 saisons quelque part, et puis à un moment, il y a un gars qui est meilleur que toi, et puis
c'est comme ça, c'est la deuxième. Et j'ai commencé en disant que le foot était cruel. C'est le foot, c'est comme ça.
pause. C'est cruel de pas le
dire. Pause. Parce que là, là, vous partez très fort, trop fort. Même Claudio, hein, a du mal
à rire. Il est mort de rire.
Il est mort de rire. Il observe ça. Pierre sera avec nous, 32-16. Hein, peut-être Pierre Sage, on verra. Suspense. Restez avec nous, c'est Génération After sur RMC. 20h44, on revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, merci d'être avec nous avec Kevin Diaz, Jimmy Brown et Walid Acharchour et notre invité exceptionnel Claudio Cacciapa est dans Génération After jusqu'à 22h tout à l'heure hein, en fin de Génération After. On se refera quelques souvenirs avec toi. 2001-2007 à Lyon, extraordinaire. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué? Quel joueur de Ligue 1 qui t'a posé le plus de problèmes par exemple? Quel est le meilleur Lyon ces années-là selon toi? Quelle saison? T'as le temps pour réfléchir hein, Claudio, il souffle.
C'est dur.
C'est dur, ça. Hein.
Ah, c'est Génération After.
Bon, j'accueille Pierre au 32-16, supporter de l'OL. Salut, Pierre. Bonsoir, Pierre.
Est-ce que Pierre est là?
Pierre, es-tu là?
Il est sage, Pierre, bon. Là.
Pierre? Bien.
Ouais, je suis là.
Bienvenue dans Génération After.
Salut, Nico. Salut, bonsoir, Walid, Kevin t'accueillir. Et bon. Notre légende.
Eh oui.
Audio.
Bien sûr.
Qui nous a fait gagner la Coupe de la Ligue.
En 2020, en 2001, exactement.
Exact.
Sur une chevauchée folle. Tu vois, tu pars quasiment de ton moitié de terrain, clairement.
Ouais.
T'accélères.
C'est ça.
Tu transmets à qui?
À Sony, je pense. Je suis venu avec Sony.
Il te la remet en hauteur.
Je donne à Steve Marley.
Oui.
Qui me donne. Et là, c'est le lob. C'était Porato, je
pense. Porato dans le but de l'AS Monaco, exactement.
Je me rappelle avec le sponsor Lyon, non?
Oui, tout à fait.
Et il finit dans les filets, Claudio.
Lyon, ouais.
Et tu finis dans les filets, hein, c'est
ouais.
Ça, hein.
Ouais. Ouais.
Il hallucine tellement en fait qu'il finit dans les filets.
Oui, c'est beau. C'était beau.
Bon, alors Pierre, justement, devant les filets, tu veux qui, toi, pour la finale de Coupe de France?
Est-ce
que tu
penses que... Moi, je vous ai écouté dans vos arguments, mais pour moi, c'est évident qu'il faut mettre Lucas Perry. Alors, quand Nico, tu posais la question de pourquoi Lopez, il perd sa place que maintenant? Parce que pour perdre sa place, ben, il faut pas être bon. Et Lopez, il a toujours été bon avec Lyon. Alors, pourquoi la Coupe de France, ça serait Perry? Ben, parce que la Coupe de France, on a quand même une bonne chance de finir au tir au but. Et que le meilleur là-dedans, ben, c'est Perry.
Aussi,
Lopez,
c'est un bon
super
argument.
Gardien. Mais je veux dire, c'est un petit peu comme Lloris, sa spécialité, ça n'a jamais été les pénaltys.
Assez d'envergure pour les pénaltys.
Voilà, donc c'est pas...
Après,
c'est
il peut rentrer en jeu pour la séance, hein, Lucas Perry. On l'a déjà vu. Voilà. Hein.
Donc déjà Lucas Perry, il a fait toute la compétition en Coupe de France, donc pourquoi l'enlever maintenant? Mais aussi, il y a un autre argument qui est très important, c'est que moi, j'adore Lopez, hein, vraiment, je ne suis pas là pour critiquer. Mais depuis quelques semaines, il n'est pas décisif. Alors, je ne dis pas qu'il fait des boulettes, hein, loin de là. Mais si j'enlève les matchs de Clermont, il a quand même pris 13 buts en 5 matchs. Quoi. Il est sur une moyenne de quasiment 3 buts encaissés par match. Même si je suis d'accord que la défense, elle n'est pas irréprochable, etc. Il n'est pas décisif sur beaucoup de matchs. Presque le seul match où j'ai vu vraiment décisif, c'est contre Brest, où il a été brillant, même malgré les 3 buts encaissés. Mais contre Paris, il fait pas un arrêt. Okay. Contre Monaco, il prend 2 tirs, 2 buts. Contre Lille, il a 4 tirs, 3 buts. Et sur les corners, par exemple, le 3e but de Lille, bah évidemment qu'il est catastrophique. Donc moi, je trouve que le niveau de Lopez, c'est aussi que j'ai envie de mettre Perry. Après, si on gagne la Coupe de France, mais qu'on lui fasse soulever le trophée, il aura gagné quand même s'il est pas titulaire.
C'est vrai.
Et puis j'ai un autre argument, c'est que le PSG, ils nous ont mis 4 buts à Gerland.
Il en a pris 8 cette saison contre Paris.
Il en a pris 8. Donc moi, je trouve que psychologiquement, les attaquants du PSG,
Jimmy veut qu'il finisse sa carrière avec une finale, même s'il en prend 4 de plus.
Non, bah, pas voilà. Du tout.
Et après, le vrai sujet.
Avec Perry, vous allez faire clean sheet, les deux.
Non,
de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai envie de dire que ce soit l'un ou l'autre des gardiens, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas péril en la demeure.
Wow, mais... Ça fait un quart d'heure qu'il veut la passer. Même Claudio, il est affligé, Claudio.
La passe téléphonée.
Mais pourquoi tu vois, c'est ça le problème dans le journalisme.
Ah oui. Tu nous fais ancien joueur.
On valorise pas le partenaire.
Bravo.
On applaudit. On applaudit. Non, ici, tout de suite, ça tacle.
Il a raison. C'est vrai que
Flo. C'est pas un spécialiste, lui. Il tacle pas, lui.
C'est vrai que Flo Gautreau fait ça. Limite, tout le monde l'applaudit.
Non, pas du tout.
Quand c'est Kevin, pas du tout que pour un ancien footballeur, quand même, je pense que cette expression est intéressante à sortir, mais puisque vous nous dédaignez toujours, nous qui sommes...
Tu méprises les footballeurs là en fait, là,
non,
c'est ça.
C'est
un autre sujet.
J'exprime votre dédain envers nous, mais je plaisante. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que c'est deux bons gardiens. Il y en a un qui a fait la Coupe de France, il y en a l'autre qui joue le championnat. Il a pris quand même beaucoup de buts aussi, même si c'est une légende.
Là, c'est la synthèse, c'est le moment synthèse.
Et donc là, c'est le moment synthèse.
Et puis, on n'est pas à l'abri qu'il y en a un qui se blesse. Ça se trouve, Perry va se blesser. C'est Lopez qui rentre.
Mais ton argument, je pioche un argument de plus. Sur les tirs au but, tu as été très pertinent, Pierre.
Oui. Merci.
Non, non,
merci,
mais beaucoup plus que Walid et Kevin sur l'argumentaire.
Jimmy, lui, c'est vrai. Il veut que ce soit le match guinguette
ou Carlota.
Non, mais c'est vrai. Pas que Jimmy, Claudio aussi.
Il y a tous les anciens.
Anthony Lopez n'a pas un titre avec lui.
L'argument massif, c'est Pierre qui l'a donné. Bravo, Pierre, qu'à votre tour.
Est-ce que Claudio, il a une licence à lui pour finir sa carrière dans l'équipe de Jimmy demain? Enfin, samedi.
Après, là, on manque de respect à Anthony Lopez.
Parlons des joueurs de Lyon, justement. Imaginons, là, Claudio, t'as Alexandre Lacazette devant toi. Il te dit, je sais pas si je reste à Lyon ou pas. Je peux faire encore un dernier gros contrat, peut-être à l'étranger, en Arabie Saoudite ou ailleurs. Tu lui dis quoi ?
Pour moi, il faut qu'il reste. Je pense qu'il est revenu à Lyon pour finir sa carrière chez lui. Pour moi, il faut qu'il reste.
Il a encore beaucoup de services à rendre à l'Olympique Lyonnais.
Ah oui, il a prouvé encore. Hein.
19 buts
cette saison, il a prouvé encore. Hein. La saison d'avant,
28 buts en Ligue 1.
Ça fait 47 buts en deux saisons.
Mbappé, alors que c'était une saison qui était très compliquée.
Qu'est-ce qu'on veut de plus d'un attaquant?
Ouais. Bon, c'est
il
lui.
Il marque des buts. Ouais. Et lui, il a fait. Pour
donc
moi,
c'est quoi? C'est 28 plus 19 en deux saisons.
C'est 28 ou 27, c'était sûr?
Ouais, 28 ou 27, je crois.
Ouais, c'est grosso modo.
Je crois que c'est 28.
Mais c'est beaucoup, hein.
Parce qu'il avait pas égalisé Mbappé. Mbappé, ils étaient à égalité les deux. Je sais que Mbappé c'était 28. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas très très grave.
Et l'homme en lui-même, justement, Lacazette. On sait, c'est devenu un leader aussi, encore plus en revenant à l'OL après sa période d'Arsenal. Comment 27. Tu pourrais le décrire, justement?
27.
Alex, c'est quelqu'un du bien. C'est un bon mec, mais très très réservé.
Très réservé.
Ouais. Lui, il est beaucoup plus réservé que, par exemple, Tolisso. Tolisso, c'est quelqu'un qui va mettre l'ambiance, qui va mettre le feu, qui va rigoler avec tout le monde. Alex, un peu moins.
Mais c'est
une belle personne.
Il sait taper du poing un peu quand ça va pas. Il sait prendre la parole.
Oui, il sait. C'est pour cela qu'il est capable.
Il sait mettre deux petites claques quand il y a un petit jeune qui déraille ou pas.
Non, il est capable. Il est capable. J'ai déjà vu. Plusieurs fois il parlait avec les plus jeunes.
Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même significatif de votre époque, qui était extraordinaire, la plus belle époque de l'Olympique Lyonnais. Et sur les 5-10 dernières années où il y a beaucoup toujours de talents qui sortent du centre, mais on a l'impression qu'il n'y a plus les cadres que peut-être t'étais ou que Chris. À mon avis, quand t'arrivais dans le vestiaire avec Atsapa, Chris, Juninho, je pense pas que le mec il allait faire le malin.
Il y avait que des monstres.
Voilà, il y a un moment, sinon je pense qu'il allait prendre une petite semelle de crampons 18 à l'entraînement.
Non, t'as vu arriver à Tim Benarfa dans l'équipe, t'as vu Karim Benzema dans l'équipe.
Bien sûr.
Ça manque ça quand même dans le football
moderne.
Mais
je suis d'accord avec toi parce que à notre époque, c'était différent quand même. Hein. Déjà, l'équipe a marché très bien, elle tournait très bien. Ça veut dire que les jeunes qui montaient, ils pouvaient pas faire le malin.
Ah oui, quand t'arrives dans une machine de guerre comme ça, c'est pas pareil.
Ils pouvaient pas faire le malin parce qu'ils
prétendre à une place de titulaire ou vouloir.
Ouais, non, pas du tout. Et nous aussi, on était un peu
très dur.
On était dur. Parce que il fallait. Parce qu'aujourd'hui, on voit, je suis d'accord avec vous, que ça manque des cadres. Mais c'est vrai que la génération, c'est pas du tout comme avant.
Tu penses quand tu parles, je pensais aussi à Ryan Cherki, le crack du centre de formation. Tout le monde le voyait éclore très rapidement sur une place incontestable dans le 11 lyonnais. C'est pas le cas encore aujourd'hui, même s'il a enchaîné quelques matchs en tant que titulaire. Comment tu juges son évolution? Est-ce que tu trouves qu'il progresse comme tu l'avais imaginé?
Écoutez, moi j'ai travaillé avec Ryan au moins 3-4 saisons, je pense, voire plus. Il a progressé, bien évidemment, mais je pense qu'il continue. Là aujourd'hui, je pense, ça fait déjà un an que je suis parti, mais je pense que là aujourd'hui, il a compris. Il a compris que le foot, c'est pas que lui. Le foot, c'est le collectif. Et bien sûr qu'aujourd'hui, je pense que ça lui fait mal d'être pas titulaire indiscutable de cette équipe. Et j'ai des infos, oui, qui travaillent plus que même, je vois sur le terrain. Quand je regarde les matchs de Lyon, je vois qu'aujourd'hui, il essaye. Il fait des efforts. Il essaie de se replacer, qu'avant, il faisait pas. Et là, aujourd'hui, il a compris que s'il fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et il jouera pas. Et ça veut dire que pour moi, il a encore des choses à progresser, mais je pense qu'il est intelligent, il va falloir le faire.
En tant qu'adjoint, toi, à l'époque, tu avais un travail avec lui, parce que je sais que le numéro 2, Jamal Alioui, est très dans la discussion, dans la communication, et c'est vrai que j'ai les mêmes échos que toi, c'est beaucoup mieux cette saison depuis que Pierre Sage est arrivé, mais on disait aussi la même chose avec Laurent Blanc. Et c'est quoi, ils font un travail quotidien pour lui faire comprendre, pour...
c'est quoi, c'était quoi ta relation avec lui?
On avait une bonne relation, mais c'est Ludo Joly qui s'en occupait de lui.
C'est Ludo.
Peter ou Laurent qui a donné le rôle. Ludo, toi, tu restes avec Ryan, c'est toi qui vas le faire travailler. Et je pense que Ludo, il passait beaucoup de temps avec lui, sur le terrain. Et on doit aussi avec des vidéos, tout ça. Mais Ryan, c'est quelqu'un, il écoute. Il écoute. Après, il a du mal à chaque match
à appliquer.
C'est pas facile, hein. Parce que déjà, depuis tout petit, pour moi, il est là le problème aussi. Que depuis tout petit, tout le monde le caresse, c'est le plus beau, t'es le meilleur.
Ça, tu l'as observé, ça.
Oui, les autres récupèrent le ballon, on donne à Ryan. Ryan, t'as pas besoin de défendre. Imaginons. Ouais. Depuis l'âge de 10 ans, et après 16 ans, 17 ans, quelqu'un va me dire de défendre. Le gamin dans sa tête, non, mais ça fait déjà au moins 10 ans qu'ils me disent t'as pas besoin de défendre.
Et là, maintenant, ils me disent. Avec Peter Boss, c'était compliqué, ça, notamment tactiquement.
Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les coachs, on veut qu'il ait 11 joueurs, ils attaquent et qu'il ait 11 défendre aussi. Parce que je dis, tu peux pas te permettre de laisser un seul joueur à ne pas défendre.
C'est encore un débat, même ici dans l'after, où certains pensent qu'on peut libérer un Kylian Mbappé de la tâche défensive. C'est intéressant.
Non, tu peux. En Ligue 1, ça passe.
Ah !
En Ligue 1, ça passe. Merci. Mais en Ligue des Champions, ça passe pas.
Voilà.
C'est clair.
Il est totalement génération after, on peut envoyer la pub.
On envoie la pub ou pas?
Ouais. Bah oui, là on peut.
D'abord, on remercie Pierre quand même, appel pour notre. Et puis aussi, c'est l'alerte. La roue RMC, bien sûr. Vous avez 5 minutes pour envoyer roue au 732-16 par SMS. Roue au 732-16, tentez de gagner 20 000 euros. N'hésitez pas, roue au 732-16. Merci Pierre d'avoir fait le 32-16, justement. Nous, on revient dans quelques instants. Faudrait que tu nous parles de Bradley Barcola, hein. Tu l'as vu, presque minot, Bradley Barcola, Claudio. Savoir ce que tu penses de son évolution. C'est extraordinaire. Il y a 2 ans, il débute. Il fait sa première titularisation Ligue 1. Aujourd'hui, il va jouer l'Euro avec l'équipe de France. Et puis, au programme également de Génération After, Kevin qui veut parler de Marseille, qui espère voir Franck Hez à la tête de l'équipe. Et puis, encore plein de choses dans la deuxième heure, notamment le quiz. Inscrivez-vous au quiz au 732-16. Génération After RMC, à tout de suite.
Génération After.
RMC. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez.
Il me demandait pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Génération After sur RMC, 21h02 avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Walid Déjarchour et notre invité Claudio Cacciapa. Je ne l'ai pas dit aussi, mais demi-finaliste de Ligue des Champions, bien sûr, avec l'Olympique Lyonnais. 4 sélections avec le Brésil.
Ouais, c'est ça.
C'est quel match, tu te rappelles un peu?
Ouf. Déjà une Coupe de Confédération.
Eh oui.
Ouais, Japon, Corée, je pense. En plus, on a perdu la demi-finale pour l'équipe de France. Et après, les autres, le Pérou, je pense. Les deux autres,
mon grand souvenir.
Je me rappelle cette confédération parce qu'il y avait un joueur devant brésilien, il s'appelait Washington.
Oui, bien sûr.
Et je me disais, ça allait être un crack, etc., quand j'étais petit. Et derrière, ça a fait grand chose.
Flop.
Au Brésil, oui.
D'accord.
Au Brésil,
et je me rappelle qu'il avait le 21 Washington.
Il a marqué pas mal de buts.
Ouais.
Alors, on va parler dans un instant de l'Olympique de Marseille. Tiens, quelques infos à vous donner concernant le PSG, adversaire de Lyon samedi soir, pour vous dire que Kylian Mbappé est bien dans le groupe du PSG pour la finale. Ousmane Dembélé aussi. Mbappé qui aujourd'hui a rappelé son envie de faire les JO à Paris, mais qui se rangera derrière la décision de son futur club, bien sûr le Real Madrid. Puis autre info, signé Fabrice Hawkins d'RMC Sport. Le PSG accélère dans le dossier Léni Yoro. Olivier Létang, le patron du LOSC, parlait d'une indemnité proche de 100 millions d'euros encore récemment. Somme extravagante à un an du terme de son contrat. Un transfert pourrait se concrétiser autour de 60 millions d'euros, peut-être avec bonus, voire un peu moins. Discussions en tout cas se poursuivent actuellement, c'est important, entre Paris et les propriétaires, les dirigeants lillois. Le PSG croit vraiment en ses chances. Je rappelle aussi que le Real Madrid est sur les rangs de Léni Yoro, hein, mais le Real n'est pas prêt à surpayer.
Ça va se régler, ça, avec Georges.
Tu crois?
Oui.
Un certain Georges? Un Georges. Georges C?
Non, Georges M.
Georges M, bien sûr, Mendes.
Et LEC.
Et voilà, c'est ça.
Ouais. Mais oui, je suis optimiste. Tu disais, ils sont bien placés. Ils sont pas bien placés avec Lille, hein. Je pense qu'ils sont bien placés.
Ton regard sur les Niro,
avec la bonne personne.
La défense centrale comme toi, Claudio.
Surdoué. Il a entendu le prix, Claudio. Il s'est dit, j'aurais dû jouer 10 ans plus tard. J'aurais dû jouer 10 ans plus tard.
100 millions, ça fait beaucoup quand même. Je pense que ça fait beaucoup.
A priori, ce sera plus 60, quoi, tu vois, ouais. Avec des bonus. Surdoué, les Niro.
Ouais, c'est un bon joueur.
Moi, je ouais, pas bien, plus, j'ai l'impression. Mais...
T'attends de voir quand même.
Ouais, je pense.
Ouais. Après, pour les Niro, quand même, si t'as le Real Madrid qui tape à la porte, au vu de la vieillesse quand même de certains, notamment en défense, où il va quand même se libérer des places dans les prochains mois, dans les prochaines années, et l'armada qu'ils sont en train de construire avec ce stade extraordinaire, pas pour manquer de respect au PSG, qui est aussi une belle étape dans sa carrière, mais faire une Raphaël Varane en venant du nord de la France et en restant 10 ans au Real, je pense que ça pourrait quand même être une belle option.
Après, je pense qu'il peut aller au Real aussi dans 2 ans. Il est très très jeune. Mmh. On l'oublie.
Il a 18 ans à Paris pour sortir, c'est chaud.
Ah, qu'il aime. Oui, après, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai.
Même si tu fais 5 ans à Paris, tu pars avant 25 ans au Real, ouais. Encore, tu peux encore aller faire tes 10 ans derrière.
Là, au PSG, vu le secteur défensif que tu as, Kimpembe, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir.
Après, les Niros, ça reste un droitier. Donc là, oui. Tu as Marquinhos quand même.
Oui, mais après, Marquinhos, on a vu que sur certains matchs, il pouvait se décaler. Moi, je pense que tu vas avoir beaucoup de minutes l'année prochaine si tu viens au PSG. Et pour le PSG, ça reste quand même un très très bon coup que tu fais.
Ah mais ça, pour le PSG, c'est un excellent.
À 17 ans, moi j'aime bien de récupérer un peu les joueurs français qui pourraient
aller les garder chez nous aussi.
Ouais,
quoi.
Qui pourraient aller ailleurs et qui dans 3 ans coûteront 150 millions d'euros.
Il y en a quelques-uns. T'as Désiré Doué, t'as Lenny Yoro. Si le PSG pouvait se positionner sur ce genre de joueurs, ce serait pas mal.
Il faudra le saupoudrer d'expérience et de joueurs aussi. De grand talent qui pourraient être déjà prêts l'an prochain.
Bon, voilà pour le Niro. Plus d'infos sur le site rmcsport.fr. Alors, Marseille. Qui peut prendre la tête de l'équipe la saison prochaine? Priorité du moment, bien sûr, trouver un entraîneur avant de dessiner un mercato, un effectif. Sur la liste, du duo Longoria-Benatia, Paolo Fonseca, on le sait, Sergio Contessao, Franck Hez, il y a le nom de Raphaël Palladino qui circule aussi, entraîneur de Monza, 12e de Serie A. Alors, selon nos infos, malgré ce que vous avez pu lire ou entendre, la direction de l'OM n'a pas contacté encore Sergio Contessao ou Franck Hez. En tout cas, toi, Kevin, tu penses que Franck Hez et l'OM pourrait être le mariage parfait. Jingle Kevin Diaz.
Le football, c'est quand même, il y a cette fameuse phrase, là je ne l'ai pas en tête, mais j'adore ce jingle. Ça, c'est quand tu vois que tu vas rater ta passe et que finalement tu gardes le ballon.
Ouais. Enfin, on l'a vu,
le mouvement, il n'est pas beau quand même, quoi. Ouais. Là. C'est-à-dire que tu dois faire une super passe décisive, le mec il fait l'appel, toi tu gardes le ballon, c'est plus ça.
Normalement, ça siffle dans.
Non, mais là, ça siffle. C'est le changement aussi.
C'est la passe que tu devais donner.
C'est là où il faut avoir l'esprit costaud.
C'est là
où
il faut comprendre le foot.
Le mec, il est fort.
Et là, t'envoies un calma, tu vois, comme Cristiano.
Ah ouais, d'accord, ok. Il est que 21h06, messieurs, dames.
Il est bon.
Et il nous reste 55 minutes.
Ah, tu le trouves bon, Kevin Diaz? Il est bon, ta vie se démonte pas.
Il nous reste 55 minutes, les gars.
Kevin, pourquoi Franck Hez est pour toi l'homme qu'il faudrait à l'Olympique de Marseille?
Bah écoute, j'entends des noms déjà qui sont très intéressants, que ce soit Fonseca, que ce soit Serge Concessant, bien sûr, c'est des entraîneurs qui ont eu de vraiment des belles carrières, en tout cas sur les 5 dernières années pour Concessant et pour Fonseca, c'est top. Par contre, vous parliez de joueurs français pour le Paris Saint-Germain, ce qui est bien sûr une belle option avec Lenny Yoro, mais un entraîneur français comme Franck Hez, que ce soit pour lui. Pourquoi je trouve que c'est le match parfait? Parce que ce soit pour la carrière de Franck Hez, qui après un excellent travail à Lens, pourrait avoir une étape. On avait parlé de lui dans une shortlist pour Liverpool. Bah, finalement, ils ont pris un entraîneur de Feyenoord. C'est pas non plus, il aurait pu vraiment prétendre à le faire. Mais après faire, je sais pas moi, 3 ans à l'OM, comme apparemment Mehdi Bedassia et la direction de l'OM veulent laisser le temps à un entraîneur de travailler. Je pense que pour Franck Hez, dans sa carrière, c'est extraordinaire de passer à l'Olympique de Marseille. Même si Lens est un beau club, l'OM c'est quand même le niveau au-dessus en termes de médias, en termes de pression, en termes d'histoire du club. Et pour l'Olympique de Marseille, avoir un entraîneur qui connaît parfaitement la Ligue 1, qui aujourd'hui a travaillé dans un des meilleurs clubs français en termes de structure, en termes d'organisation, en tout cas jusqu'à cet été, Lens est quand même un exemple pour tous les clubs. Rapport qualité-prix, mercato, transfert, qualité de jeu, état d'esprit sur le terrain. Je pense que pour l'Olympique de Marseille, choisir un entraîneur français comme Franck Hez, qui en plus est un entraîneur moderne, qui essaye de produire un jeu attrayant, un jeu avec un pressing agressif. En gros, voilà tout ce que demande aujourd'hui un entraîneur, et c'est pas pour rien que je répète qu'il est quand même sur la liste de Liverpool, même s'il n'a pas été choisi. Donc je pense que pour les deux parties, ça peut être le match idéal parce que ce sera peut-être difficile d'aller chercher Fonseca qui est sur les tablettes notamment de l'AC Milan ou Concessant qui pourrait aller pourquoi pas en première ligue ou ailleurs. Je pense que Franquet, c'est réaliste pour l'OM, c'est un entraîneur qui a déjà battu un truc énorme en Ligue 1 avec Lens. Et s'il pouvait le faire avec l'OM, ce serait gagnant-gagnant.
Mais je veux d'accord, supporter de l'Olympique de Marseille, appelez-nous au 32-16. Walid.
Non, mais moi je suis globalement d'accord. On a beaucoup de sympathie pour Franquès. Déjà, l'homme, ce qu'il dégage, et puis surtout de par son travail qu'il a fait à Lens, et puis même son idée sur le foot. Après, le gros problème, c'est que est-ce que la pression marseillaise ne va pas le gober, quoi, ne va pas englober tout ça. Et ça, ça reste pour moi une question qui est fondamentale. Après, comme l'a dit Kevin, s'il a une direction très très forte qui va lui donner de la stabilité, ça peut aussi être un bon point. Je sais pas si on en parlera sur les prochains jours ou dans les prochaines semaines avec ce qui se passe à Lens, notamment où il y a beaucoup de remue-ménage, des décisions que moi je n'arrive pas trop à comprendre. Remue-ménage, pardon, pas remue-ménage.
Ça passe.
Je l'aurai en jingle. Mais il faudra voir l'avenir de Franquès, s'il reste ou non à Lens, et ça peut être une vraie bonne possibilité pour l'OM. Même si en termes d'expérience, par exemple, un nom comme Fonseca, moi je trouve que parce que Fonseca ça va commencer à être compliqué vu la tournure que prend son nom à l'AC Milan.
Attention, quand c'est Sao, c'est pas du tout le même football.
Oui, c'est pas du tout le même football, mais je trouve qu'en termes d'expérience, en termes de compétitivité, ce qu'il a réussi à faire à Porto,
pression supportée, notamment,
et surtout sur le côté pression, il donne quand même un peu plus de garantie que Franquès. Mais oui, Franquès.
Tu demandes s'il a la personnalité Franquès.
Après, pas très galé. Peut-être qu'avec le ballon, il a un 4-4-2 qui est assez basique. Mais je trouve quand même, quand je vois Porto, moi, en Europe, notamment, c'est quand même une équipe qui va chercher haut, qui a un gros pressing. Et voilà.
Bon coach.
Et globalement, l'OM. Et puis même, moi, je sais que les dirigeants veulent retrouver une vraie, pas le mot grinta, mais une rigueur dans les performances, une attitude irréprochable. Je trouve que Concessao et peut être un entraîneur qui t'apporte, qui t'apporte
voir plus. Par rapport à ce que tu disais, le match parfait. Moi, j'adore Franquès et je pense que pour Franquès, ce serait exceptionnel. Maintenant, pour Marseille, comme disait Walid, le contexte il est particulier. Alors, il y a des discours qu'on fait avant la saison de dire on veut quelqu'un sur 3 ans, on veut la stabilité. On sait comment ça se passe à Marseille. Si tu fais 3-4 contre-performances, il faut un mec très costaud qui a l'habitude d'un contexte à très haute pression. Concessao, il a connu un contexte similaire à Porto, tu le sais bien, Kevin.
C'est un
club où voilà, il faut être tout le temps à fond, etc. Tu sens qu'il a ce charisme, cette poigne. Moi, j'imagine tout à fait Concessao arriver sur le banc de l'OM. Dans un autre registre, Fonseca, tu le disais. Alors même Concessao est annoncé parfois aussi du côté de Milan. On va voir. Il va y avoir cette question-là aussi de les choix que vont faire les cadres européens, parce que malheureusement pour eux, les Marseillais seront pas le premier choix de ces coachs-là. Mais si tu arrives à faire Fonseca sur la dynamique qu'il a actuellement, la saison exceptionnelle qu'il a faite, les saisons exceptionnelles qu'il a faites à Lille, où il a réussi quand même avec peu de moyens. Faut rappeler quand même, hein, il arrive à Lille où c'est une austérité, où tu as des casseroles, de l'air Lopez, etc. Il a fallu reconstruire. C'est un peu similaire à ce qui se passe à Marseille aujourd'hui. Il a été capable de le faire en plus en proposant un jeu attrayant. Que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ce serait même si j'adore Franquès encore une fois et qu'il faut valoriser ce qu'il a fait à Lens.
Moi, je dis ça aussi parce que Fonseca, je pense que ça va être difficile de l'attirer.
Mais entre Concessao et Franquès, tu prends Concessao?
Bah ça dépend. Moi, Concessao, j'adore. Ouais. J'adore la grinta. Il a un adjoint en plus français, Dembélé.
Il a connu la Ligue 1 avec Nantes où il avait fait un passage très,
très, très, très bon à Nantes.
Il a travaillé au Standard de Liège en Belgique. Il n'y a pas de problème. Concessao, c'est bien. Mais quand même, j'ai une petite préférence pour Franquès parce que footballistiquement, ce que propose Franquès, je pense que ça peut aussi très bien convenir au Vélodrome.
Quand
tu parles d'attitude des joueurs de Franquès, quand même, c'est assez irréprochable.
Oui. Après, est-ce qu'il va pouvoir le faire dans un vestiaire un peu plus compliqué, avec des plus gros salaires, avec des, tu vois, là, tu dois gérer l'Iwaï, à Lens. C'est un peu différent quand même à Marseille.
C'est plus un vestiaire non plus de constellation.
C'est pas ça, mais par rapport à ce que dit Walid, je le gérerai à Lens. Quand Eliwaï, il marque pas pendant 5 matchs à Lens, c'est pas très grave. Si le même joueur, l'attaquant de Marseille, il marque pas pendant 5 matchs à Marseille, c'est la folie.
Mais c'est juste Claudio.
Je pense que Franquès, je le connais parce qu'on a passé les diplômes ensemble. Je pense qu'il est prêt. La pression, tout ça, il est prêt. Si c'est lui que Marseille décide d'aller chercher, il est prêt. Moi, je le connais. Je l'ai tutoyé pendant un an, pendant la formation. Il est prêt. Et le travail qu'il a fait à Lens, ça le démontre. Il a même pas besoin de parler. Ce qu'il a fait à Lens,
aujourd'hui, pour moi, il est capable d'entraîner dans les plus grands clubs.
Donc, tu penses qu'il a le sang-froid pour, dans un contexte marseillais qui est beaucoup plus pressurisant, brûlant qu'à Lens, pour gérer ça au quotidien, quoi.
Il peut, il est capable.
Mais moi, j'ai envie d'y croire. Je dis pas, je dis pas que Franquez ne peut pas. Lens, ça reste.
On parle en rapport avec les autres noms qui sont annoncés.
Lens, c'est pas la même pression que Marseille, mais des gros supporters, une vraie ambiance. Donc, il a quand même un contexte. Il est pas Louan Cuiseau, avec tout le respect que j'ai pour Louan Cuiseau. Mais la réalité, c'est que j'ai un petit point d'interrogation sur cet élément-là. Après, il faut savoir aussi, Nico, que moi, je pense que l'Olympique de Marseille voudra un coach qui veut véritablement venir à l'Olympique de Marseille. Avec une vraie envie, pas que ce soit le troisième, quatrième choix, vraiment, c'est le jeu de la chaise musicale, mais il reste une chaise.
Mais S prend du poids, parce que je pense que S, pour lui, ce sera un super.
Je sais pas, mais en tout cas.
Pour lui, c'est pas un deuxième choix, quand même.
Oui, c'est pour ça que je vais dans ton sens sur un Paladino, sur un Franquet, sur ce type de choix-là, parce que ce sera pas forcément un gros, hein, on sait pas. Moi, je trouve que contre Cessao, voilà, son expérience est très très bien, ce serait très très bien. Mais est-ce que contre Cessao, il va être présent, est-ce que là, il va montrer une attitude où je veux venir à Marseille.
5 ans qu'il joue la Ligue des Champions.
Voilà, je veux venir à Marseille. Est-ce qu'il va venir à reculons? Est-ce que dans les discussions, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais en tout cas, dans cette shortlist là, moi, Franquez et Fonseca, c'est deux coachs qui me parlent.
On prolonge dans un instant, bien sûr, avec vous. 32-16, appelez-nous, supporters marseillais, pour nous dire quel est votre favori, celui que vous aimeriez voir prendre votre équipe la saison prochaine, hein. Ça peut être un autre nom là, la liste, c'est vrai qu'elle est intéressante, elle est pertinente, hein. Mais dans les prochaines heures, un autre nom peut sortir du chapeau.
On n'a pas eu Johan Crochet sur Paladino qui nous raconte un peu
si l'info prend de l'épaisseur, ouais. On l'appellera, ouais. Bien sûr,
ouais.
Restez avec nous, c'est Génération After avec Claudio Cachapa, Jimmy Brown, Kevin Diaz et Walid Acharchou. On revient dans quelques secondes, hein, tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur le kioskapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Jimmy Brown, Walid Acharchour et notre invité Claudio Cachapa, on parle du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je sais que vous êtes nombreux sur le chat à commenter, à attendre avec impatience une annonce. Elle viendra peut-être dans les prochains jours. C'est évidemment le chantier prioritaire. Vous pouvez nous appeler d'ailleurs pour en parler au 32-16. Il y a une remarque intéressante de Monkey sur le chat YouTube qui dit: est-ce qui a été très en colère des sifflets envers Wally va entraîner Marseille? Il va devenir fou au Vélodrome.
C'est une possibilité, après. Moi, j'ai pas envie de...
Oui, mais il s'adressait plus au contexte. Enfin, je veux dire, Aize, il parlait de Bollaert. Après, tout ce que Lens avait fait de bien, ils reviennent de loin, les Lensois. Tu vois, je pense qu'il saura s'adapter aussi à ce contexte-là. Il sait que c'est plus brûlant au Vélodrome qu'à Bollaert. Quand ça ne va pas bien, encore une fois, Lens est un public extraordinaire. Quand ça va bien, et c'est peut-être moins hostile qu'à Marseille quand ça va un peu moins bien.
Mais c'est vrai que Franquez et Marseille, sur le papier, c'est excitant. C'est excitant.
Moi, j'ai tout entendu. Contre ça au Marseille, ça m'excite plus.
Ah non, mais moi, j'ai
contre ça au Marseille, ça m'excite plus.
C'est vraiment l'alliance du feu et du feu.
Moi, les deux m'exciteraient. Mais même
Fonseca aussi,
ça m'exciterait. Bah,
on va se retrouver avec un entraîneur yaourt nature, comme dirait Walid Acharchour.
Ouais, non, mais ouais, je sais pas.
Attendons de voir.
Ou Claudio, pourquoi pas? Claudio a ses diplômes aussi.
Ouais,
Claudio,
mais Lyonnais comme ça à Marseille, tu pars pas.
Non, enfin, je peux pas.
Comment ça,
Lyonnais à Marseille, c'est pas possible. Voilà, ouais. Je suis désolé, c'est pas possible.
Claudio, demain, on a posé la question à Bibé il y a un mois, il était ici.
C'est bien mettre les gens dans l'instant.
Demain, Claudio, t'as un appel de Pablo Longoria. Claudio, on aimerait que tu prennes l'Olympique de Marseille. Tu réponds quoi?
Je vais.
Ah, ben voilà, bien sûr.
Okay, j'ai envie de travailler, j'ai faim, je vais.
T'as un appel du nouveau propriétaire de Saint-Etienne, il te dit à un moment quand il
gagne. Gars, qui t'appelle.
Je vais pas.
Ah, voilà.
Clair, okay. Non, mais là, il peut pas, là, les gars.
T'as plus faim, là?
Non.
Non.
J'ai assez mangé avant.
C'est magique, ça.
Bon, évidemment, quoi. Bon, on saura. C'est intéressant parce que ce sera la première étape pour ensuite dessiner les contours de l'effectif. On sait pas encore réellement ce qu'on veut faire à Marseille. J'espère presque pour les supporters marseillais qu'on attend d'avoir l'entraîneur pour savoir le profil des joueurs qu'on va recruter.
Oui, moi je pense qu'ils veulent veulent pas se précipiter non plus, hein, sur le choix de l'entraîneur.
Ouais, moi, je te dis que toi tu disais excité par l'entraîneur, mais on fait bien sûr, tu vois, petit teasing, on fait bien sûr l'after tout l'été. Mais l'été de l'Olympique de Marseille, ça va être quelque chose.
Mais comment le club
soit il va rien se passer et les supporters vont péter un câble parce qu'il se passe rien. Soit il va avoir beaucoup de changements, mais on va falloir voir parce que là, j'avais dit il y a quelques semaines, mais là le virage pour Pablo Longoria.
Et puis même si t'as pas de barrage,
il est serré.
Pardon, mais même si t'as pas de barrage, il faut faire attention. Hein, on va prendre du temps, etc. Non. La saison, elle se prépare vite. Il faut vite faire des choix. Après, pour avoir des joueurs.
Il faut pas se précipiter non plus.
Oui, mais sinon,
se précipiter non plus.
Si tu mets trop de temps, tu peux le traîner aussi en début de saison et quand ça part mal à Marseille, ça peut être plus compliqué qu'ailleurs.
Mercato,
quand
se précipiter.
Le mercato, c'est maintenant.
Oui, on parle pas de demain,
les 15 prochains jours. Voilà. Ça sera réglé, tu vois. Mais je te dis pas qu'il va arriver en
début juillet, ce serait compliqué.
En août, quoi. Mais même pour l'effectif, on a souvent critiqué le fait qu'il y avait beaucoup de changements et que ça arrivait tard. Là, il va en avoir du changement vu la gueule de la saison et puis surtout même les situations contractuelles de beaucoup de joueurs, les salaires aussi, les gros salaires de beaucoup de joueurs qui n'ont pas été incroyables. Cette
à minima 50% de l'effectif qui doit être modifié.
Ah oui, je pense. Voilà. Ouais, je pense.
Loïc est avec nous, 32-16, supporter de l'OM. Salut Loïc. Loïc, es-tu là?
Oui.
Bonsoir, bienvenue dans Génération After.
Alors, bonsoir à tous.
Tu connais la liste des potentiels sur le banc de l'OM. Hein, d'autres peuvent se rajouter dans cette liste. Toi, tu veux qui?
Habib Bey, pour la simple et unique bonne raison, enfin, voire deux même. La première, c'est qui serait bien, on n'a pas de Coupe d'Europe. Donc ce qui est bien, là, cette année, il faut bâtir. On sait qu'on va avoir un turnover encore d'à peu près 50% de l'effectif. Donc il faut, à mon avis, nommer un entraîneur dans le mois de courant du mois de juin, maximum juillet, pour que lui choisisse ses joueurs, pour éviter de répéter l'imbroglio qu'il y a eu avec l'ami Marcelino l'année dernière, qui est arrivé à la début août, je crois, ou au 10 août, et qui a fait venir des joueurs qui lui correspondaient à lui. Après, on a vu le flop que ça a été, mais ça a été un pari. Là, aujourd'hui, il y a des entraîneurs, bien sûr. Franquez, c'est sexy et attrayant parce qu'il fait bien jouer ses équipes. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher des entraîneurs niveau Champions League parce qu'ils vont nous demander beaucoup d'argent en termes de salaire, ce qui est normal. Hein. Tu payes la qualité du gars. Que là, tu as un mec qui est en train d'apprendre, qui continue sa formation et qui connaît déjà le contexte marseillais. Donc, Habib, why not?
Il faut de l'expérience absolument sur le banc à Marseille, Claudio. Même, j'ai même plus des titres, des années au plus haut niveau.
Là, en parlant d'Habib, je pense qu'il a prouvé qu'il est prêt aussi. Et après, Habib, c'est plus facile parce qu'il connaît la maison. Il connaît comment ça se passe à Marseille. Et je pense que après l'expérience, elle est importante aussi. Mais moi, je vois aussi Habib. Pour moi, il y a
pas trop tôt, pas forcément.
Non, pas forcément. Après, dans le foot, pour moi, il y a pas de vérité.
Exactement.
Tu peux mettre Habib et ça marche. Bien sûr. Peut marcher et ça peut pas marcher. Ou tu peux mettre Conceição et ça peut marcher ou pas marcher.
Exactement.
Dans le foot, il y a pas de vérité.
Oui, mais faut réduire la marge d'erreur possible,
tu vois.
Avoir un maximum de garantie, tu vois.
Il faut quand même aussi laisser place à la nouveauté. C'est-à-dire que sinon, il y a jamais un entraîneur qui va pouvoir, ni Franquez ne pourra entraîner l'OM parce qu'il aura pas entraîné avant. Et comment il va entraîner Liverpool s'il a pas entraîné l'OM avant, etc., etc. Donc, Habib Bey, comme le dit notre auditeur, on n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais moi j'ai aucun problème. On connaît aujourd'hui quand même le niveau qu'il faut pour être entraîneur performant au niveau national, qui est un niveau professionnel en France, hein, où tout le monde est professionnel. Certes, c'est pas de la Ligue 1, il y a pas la même.
Mais qui est un championnat qui est méprisé en France.
Il y a peut-être pas autant de médias et tout, mais quand tu fais quand même le parcours qu'il fait au Red Star, même s'il a un beau budget, même si il y a beaucoup de pression justement du fait de son métier de consultant. Moi, si demain il est nommé à la tête de l'Olympique de Marseille, mais je vais en fait, je suis comme Claudio, notre auditeur. Je te dis pourquoi pas. Je peux pas du tout dire, ouais, mais attends, c'est pas parce qu'il est meilleur entraîneur des nationales qu'il peut. Mais dans ce cas-là, Xavi Alonso, il est jamais entraîneur.
Thiago Motta, il prend pas d'équipe à Bologne.
Voilà. Non, mais il y a un moment, les gars, ils sont performants. Les entraîneurs, aujourd'hui,
c'est l'exemple, Thiago Motta, il va à Bologne avant d'aller à la Juve,
Mais il va y avoir une étape intermédiaire.
Aujourd'hui, les opportunités.
Zidane prend pas le Real, aussi.
Abbey,
comment ça? Non, mais Zidane, il fait Castilla, Real.
D'accord, ok. Bah, Abbey, il a fait
ce que je vous dis.
Ah,
Abbey, il a fait 3 ans.
c'est son passé de joueur à Marseille qui entre dans la discussion.
Le problème avec Habib Bey,
sinon tu dis Grégory Poirier qui est à Martigues, pourquoi pas l'OM?
Non mais parce qu'en fait le débat
pourquoi pas.
Oui, non mais OK, dans ce cas-là pourquoi pas partout, mais je veux te dire qu'il y a des étapes intermédiaires.
Aujourd'hui en fait Jimmy, le débat avec Habib Bey, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'on se on découvre que les anciens joueurs qui ont fait 500 matchs au très très haut niveau ne partent pas sur la même ligne
évidemment
qu'un entraîneur.
Mais on dit la même chose. Oui.
C'est comme ça, c'est le football.
Déjà, ils peuvent passer les diplômes plus facilement.
Thiago Motta, tous les entraîneurs des U19 au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas eu la même hype que Thiago Motta derrière en Italie. Ouais. Mais c'est parce que Thiago Motta, même avant les U19, il avait déjà des opportunités parce que son passé de joueur, il est incroyable. Et puis parce qu'il était
numéro.
Voilà, tous. Donc à un moment donné, moi, Habib Bey, je l'ai toujours dit, on l'a expliqué. Pour moi, il doit être dans une shortlist 6e ou 7e à l'Olympique de Marseille. Et moi, je voudrais pour Habib Bey qu'il aille dans un projet intermédiaire en Ligue 1, dans un club.
Je pense que ça lui correspond.
Mais demain, comme il vient de le dire, Kevin, Pierre Sage, il avait quoi comme expérience à Lyon? C'est Will Steele à Reims, il avait quoi? Régis Lebris à Lorient, c'était un formateur.
Alors attention parce que Régis Lebris, il faut bien, parce que souvent on le dit et je pense qu'il faut il faut vraiment insister là-dessus. Régis Lebris, Will Steele, notre ami Francaise. C'est des entraîneurs, ça fait plus de 10 ans
qu'ils
sont entraîneurs. Mais attention.
C'est des formateurs, des éducateurs.
Peu importe, quand t'es un formateur, tu es un entraîneur.
Oui, d'accord,
Donc, tu as peut-être pas l'expérience.
Mais les questions du vestiaire.
Devant 50 000 personnes.
Voilà, c'est
devant,
ça que je dis.
Devant un parterre de médias.
Il y a toujours des inconnus.
Mais peu importe.
C'est une grosse différence, ça, les amis.
Entraîner, c'est entraîner. Et après, il y a le contexte. Est-ce que tu as été un ancien joueur dans tel club? Tu seras facilité parce que, comme disait Claudio, tu connais le contexte. On t'appréciera plus vite. T'auras un peu plus de crédit. Mais je te le dis. Le crédit d'un entraîneur, il dure une semaine. Il dure une semaine auprès des joueurs. Pour tout le monde.
Ah oui, c'est un joueur ou pas?
Un ancien joueur ou pas? Si t'es pas bon, t'es pas bon. Si t'es bon, t'es bon.
Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours eu ces questionnements. C'est-à-dire que même ceux qui étaient des grands formateurs et des éducateurs, comme Francaise, quand il arrive, il est parachuté en Ligue 2 à Lens. Je pense qu'à Lens, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi Francaise? Pourquoi on n'a pas été chercher un autre coach, un routard de Ligue 2, etc. Et Francaise, 5 ans après, il les a emmenés en Ligue des Champions. Donc, à partir du moment où tu y es, si demain, il va à l'Olympique de Marseille, moi je suis persuadé qu'il a les qualités pour coacher. Maintenant, aujourd'hui, dans une grille, si je suis Mehdi Benatia ou si je suis Pablo Longoria, j'ai 3-4 mecs devant Habib Bey, par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à la dynamique. Tu vois, c'est deux choses complètement différentes.
C'est bon?
C'est bon.
Je crois que tu voulais parler encore.
Non, on est d'accord.
C'est terminé sur Marseille, les gars. Bien sûr, on va suivre ça toute la semaine prochaine aussi, avec Flo Germain et ses infos à retrouver sur le site rmsport.fr. Merci, Loïc, d'avoir fait le 32-16. Dans un instant, tiens, on va se faire un petit plaisir, nostalgie. L'OL de Claudio Cassapa. On va te demander quel était le joueur que tu appréciais le plus à l'entraînement, celui qui t'a impressionné le plus en match, l'équipe qui t'a posé le plus de problèmes, l'adversaire aussi. Et on va faire ta carrière et parler de ton avenir aussi, surtout.
Tiens, il y a un autre exemple sur YouTube, Genesio.
Oui, Genesio pareil.
Genesio, il arrive comment à l'OL? Dans le staff, hein, hop, numéro 1 aujourd'hui. Et il a fait Rennes, il va faire peut-être Nice ou Lille.
Quoi le sujet? C'est de dire que les entraîneurs démarrent un jour. Oui, comme l'a dit Claudio, c'est plus favorable quand tu démarres dans le club où tu es formateur aussi.
Exactement.
Tu gagnes du temps, tu connais l'environnement.
Où t'as été joueur,
tu connais
les
joueurs
à Marseille.
Tu connais 30% de l'équipe.
Il a été joueur à Marseille, Habib.
Oui, mais c'était il y a un moment déjà quand même aussi. Tu vois? Ça remonte. Il était pas dans le club aujourd'hui. Non, quoi, tu vois,
l'aura qu'il a auprès des supporters, etc. Bien sûr que
c'est autre chose.
Un avantage pour lui.
C'est très versatile, ça.
Oui, mais au départ, il aura un a priori positif. S'il va à Marseille, il aura un a priori positif.
Ça dure une semaine.
C'est ça dure une semaine, ça.
Habib ou un autre, c'est la
même chose. Peu importe.
Si ça gagne, ça va très bien. Si ça perd.
Exactement. Dans un instant, donc, on parle de la carrière de Claudio et le quiz de l'after à 21h45. Hein. Vous envoyez quiz au 732-16 pour participer et tenter de gagner un bon beurre shot. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Jimmy Brown, avec Walid Acherchour, Kevin Diaz et notre invité Claudio Cassapa, qui est avec nous jusqu'à 22h. L'after prendra le relais, bien sûr, ce soir, hein, comme tous les soirs avec Gilbert Daniel, à partir de 22h. Alors, Claudio est avec nous. On va se faire un petit plaisir parce que, enfin, moi, c'est ma génération, le début des années 2000, totalement à fond. Pas dire que j'étais supporter de Lyon, mais en Ligue des Champions, c'était extraordinaire. C'est le rendez-vous habituel. C'était en clair, c'était gratuit à l'époque, et on pouvait voir l'OL s'installer au sommet de l'Europe. Tiens, d'abord j'accueille un homme qui t'a beaucoup interrogé, je pense, à Lyon, un journaliste lyonnais qui travaille à RMC. Tu connais son nom?
Edouard.
Edouard G est avec nous. Salut Edouard.
Salut Nico, tu m'as découvert.
C'est bien, c'est-à-dire que t'as bossé un peu quand même.
Celle-là, elle était facile.
Salut Loulou. Elle était facile, celle-là. J'ai fait trop d'indices, Claudio.
Ouais, t'as fait.
Bon, salut Edouard.
Grand plaisir d'être avec toi sur l'antenne.
Bon, on en parle encore beaucoup, Claudio, à Lyon. Ça restera, ça reste une légende.
Oui, bah à chaque fois, désolé Claudio, mais à chaque fois qu'on parle de Claudio, ce fameux février 2001, quand on voit arriver un Brésilien au cœur de l'hiver avec un short trop grand.
Hein? Ça, c'était demandé, ça.
Ça. Hein?
Ça, c'était demandé.
Ouais.
J'avais demandé un XL.
Pourquoi?
Parce que j'ai aimé porter des choses...
Des shorts très larges.
Ouais.
Ça faisait peur aux attaquants. Il y avait l'impression qu'il y avait des grosses cuisses. J'ai déjà fait ça.
C'est pas mal ça.
T'as rêvé de l'Atlético Mineiro, c'est ça. Hein,
c'est ça, ouais.
T'as fait 4 saisons là-bas.
Pour 6 mois.
Et voilà, pour 6 mois. Exactement. Bon, tu peux jouer avec nous aussi. On va poser des questions un peu rapido à Claudio. Claudio, quelle est ta plus grande émotion au football, justement? Tout à l'heure, tu disais, oui, il y a 2001, le but décisif en finale de Coupe de la Ligue. Lyon n'avait plus rien gagné depuis 1973. Toi, très rapidement, t'as un premier trophée avec l'OL. Quelle est ta plus grande émotion?
Écoutez, c'est vrai que le but de la Coupe de la Ligue, ça m'a permis de rester 6 ans et demi après. Mais je pense que le premier titre, ça restera marqué à vie.
2002.
Ouais, parce que Lyon n'a jamais été champion. Et ce jour-là, on arrive à gagner avec une victoire convaincante, 3-1. Et après, j'ai les images, là. Je vois les images.
Il faut rappeler le contexte, hein, c'est Lens qui est deuxième. C'était la finale pour le titre. C'était un truc rêvé, quoi. C'était un scénario rêvé à l'époque.
Oui, ouais. Nous, il fallait absolument gagner le match. Lens y jouait pour le match nul aussi. Nous, il fallait absolument. Et là, je vois les supporters après le match tous sur le terrain. Cette image, pour moi, c'est gravé à vie. Et pour moi, le premier titre, ça restera pour toujours.
Il y en a 5.
Tu sais qui c'est?
Vas-y, Edouard.
Tu sais qui est dans cette foule sur le terrain? Il m'en a parlé cette semaine.
Qui?
Un joueur actuel de l'OL.
Cacré?
Ryan Cherki?
Non.
Alex Lacazette.
Qui est champion du monde.
Tolisso.
Ah ouais. Et il nous expliquait que justement, il avait l'envie de... Alors, il n'y aura pas d'envahissement de terrain de Gerland ou du grand stade au Groupama, mais de revivre, parce qu'il était avec son papa, Vincent. Il était sur cette pelouse en tant que supporter. Et dans l'interview qu'il nous a accordé mardi, là, il me dit, ben voilà, j'aimerais bien revivre ça, mais revivre en tant qu'acteur. Et il aimerait aller là où tu allais souvent, mon cher Claudio, puisque tu as connu tout ce qui se passe derrière, au balcon de l'hôtel de ville. Donc il en a des frissons de cet envahissement de terrain dont tu viens de parler.
Et moi aussi, j'ai des frissons là. Parce que c'est tellement beau. Parce qu'il faut savoir que nous, on revenait de loin. À un moment donné, je pense, Lens, ils ont 11 points d'avance. Et on arrive à ces joueurs pour la finale, pour jouer la finale. Mais il y a quelque chose que moi, j'étais sûr qu'on allait être champion. J'étais sûr.
Pourquoi?
Parce que il y avait quelque chose dans moi qui disait c'est obligé. C'est obligé, c'est tellement beau, c'est obligé de bien finir la saison avec une victoire et avec le titre à fêter avec toutes les supporters sur le terrain, et c'était le cas. Et pour moi, je le répète, parce que c'est un joueur inoubliable.
Vous étiez spécialiste des remontadas, parce qu'en 2004, Monaco avait aussi 10 points d'avance. À un moment donné, ils sont écroulés et vous avez récupéré le titre de champion.
Ouais, c'était...
Vous avez cette force-là dans l'esprit,
j'allais dire, finaux. C'était notre force. On démarrait des fois pas au top, pas très bien, mais on avait cette force dans la continuité de rester derrière et après, à un moment donné, de pouvoir passer devant. Et c'était le cas contre Lens et Monaco aussi.
Mais Claudio, tu disais en 2002, j'étais sûr qu'on allait le faire. Est-ce que tu imaginais que ça allait s'enchaîner comme ça, que enfin la domination derrière, vous enchaînez 7 titres, c'est énorme ce que vous avez fait. Est-ce que tu pensais le premier titre, peut-être oui, tu le voyais venir, mais est-ce que tu t'étais sûr que ça allait s'enchaîner comme ça s'est enchaîné derrière?
Non, pas du tout.
Tu peux pas prévoir ça.
Ah non, tu peux pas prévoir ça. Après, c'est vrai que chaque saison après, l'équipe, elle était encore plus forte.
Et oui.
Ça veut dire que le président Las, Et d'ailleurs, petite parenthèse, pour moi, le meilleur président de France, tous les ans, il allait prendre 1, 2, 3 mecs et l'équipe, elle était encore plus forte.
Oui.
À chaque année, chaque saison, c'était
c'est
comme
ça. C'est laquelle l'équipe qui a été la plus forte?
Ah, c'est dur, hein, c'est pas facile parce que mais je pense que l'équipe je pense que c'est la deuxième année de Gérard Houllier.
Et c'est
2006, je pense, ouais. C'est l'équipe
oui, c'est ça, c'est Essien.
Non, c'est avec Thiago.
Non, c'est avec Thiago, celle-là.
Là c'est ouais, non, c'est là, regarder. C'était avec Thiago, ouais. C'était avec Thiago.
Essien,
il était pas là.
Ouais.
Nous, Thiago, il nous a fait presque oublier Essien, même si oublier Essien, c'était difficile, compliqué. Mais Thiago, c'était aussi un drôle de joie.
Et devant, c'était qui cette année-là?
Malouda, Gougou.
Et Viltor.
Fred
aussi était là, ouais.
C'est ça. Bon, le joueur, bon, beaucoup répondaient là sur le chat, hein. Faut qu'il parle de Juninho absolument, Claudio, quoi. Est-ce que c'était le joueur le plus majeur, oui, le plus impressionnant que t'as vu à l'OL?
Pour moi, c'était le plus décisif.
Décisif,
ah,
c'est
oui.
Le terme, bien sûr.
Oui. Ah oui, c'était lui le plus décisif. On savait qu'à tout moment, il pouvait débloquer quelque chose. Même en étant 0-0 à la 90e ou 82e, coup franc, tu pouvais rêver.
Que sur coup franc ou même dans le jeu?
Non, tu même dans le jeu, lui, il était très intéressant parce que même dans le jeu, les gens, ils pensaient que Juninho, c'était qu'un tueur de coup franc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était un drôle de joueur, très intelligent. Et je pense que, comme j'ai dit, 0-0 jusqu'à 90e, 12e, il fallait espérer quelque chose. C'est un drôle de joie et aussi c'est un ami, hein, un ami que je le garde à vie.
Ça fait mal au cœur justement les tensions entre Juninho et Aulas.
Oui, ah oui, beaucoup, beaucoup parce que ces deux hommes-là, c'est j'essaie qu'ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre et c'est vraiment dommage que ça finisse un peu comme ça.
Et toi, comment tu faisais? Parce que on en a parlé en début d'émission, mais tu étais dans le staff de Rudy Garcia. Entre Rudy et Juninho, c'était pas toujours facile. Comment toi tu faisais entre ton métier avec le coach et le directeur sportif et ancien ami et ancien coéquipier? Ça devait pas être simple de devoir te positionner parfois sur les désaccords.
Moi, je restais professionnel. Ça veut dire que il y a pas de problème. Je mangeais avec Juninho à midi et sur le terrain, j'ai tout donné pour Rudy que l'équipe elle marche.
D'accord. Bien sûr. Quel est l'adversaire le plus fort dans ta carrière que tu as rencontré? Pas forcément en Ligue 1, hein, même voilà, en Europe, bien sûr.
Je ne vais pas citer un seul.
Vas-y, c'est moi un top 3 des mecs qui t'ont posé plus de problèmes.
Des mecs attaquants. Dis Saint-Etienne.
des joueurs, un
ouais,
joueur.
Ouais, un attaquant, un 9.
Nzaghi.
R9.
Non, pas Nzaghi, R9. Mais.
À l'entraînement, non? Au Brésil, je sais pas.
À l'entraînement, déjà. Ouais. Nilma, déjà. Adem, Bernafa, Benzema, tout ça, ça faisait mal.
T'as joué contre Ronaldo à l'entraînement, non? Ou Ronaldinho avec la sélection du Brésil?
Ronaldinho, oui. Ouais. Oui, même quand il était au PSG à Paris, oui. Ah oui, il y a tellement de.
T'as pas souvenir d'un œuf qui t'a posé problème régulièrement?
Il y a D'Archeville aussi.
Ah oui, bien sûr, Jean-Claude, avec les Girondins, évidemment.
Beaucoup, beaucoup de problèmes.
Puissant.
Ah oui, c'était dur. C'était dur parce qu'il était costaud, il était solide, il était puissant, rapide. C'était Drogba. Il y a un paquet. Hein.
C'est magnifique, hein. Il a quoi, 30 matchs avec des champions, je pense. Tu parles de Jean-Claude D'Archeville, ça me fait plaisir personnellement.
Ouais,
non mais
c'est vrai. C'est vrai, hein.
Tu l'as vu plus que les autres, tu t'en souviens.
C'est la belle
Ligue 1, ça, c'est la Ligue 1 de notre jeunesse.
Quel est si tu pouvais rejouer un match, changer le scénario d'un match, ce serait lequel, tu penses?
Ah, Milan AC.
Bah oui, évidemment. Ah, oui.
Plus que le PSV?
Oui.
Ouais. Parce que tu te sens plus fort, c'est 2006 justement.
Bien sûr.
C'est
moi, j'y croyais, hein, 80e, ouais, un partout, hop, c'est fini, on ferme la baraque et voilà, on est qualifié. On rêvait tous de ça et je pense pour moi c'est Milan AC.
Il s'est passé quoi sur ces 10 dernières minutes, alors raconte-nous. Quand t'étais le leader, c'est quoi?
Enfin,
vous avez...
on va savoir.
Non. Vous avez mal géré.
C'est dur à expliquer.
Tu t'en voulais.
Ouais, parce que déjà, quand on prend le deuxième but, c'est un dégagement du gardien. Et le ballon il traîne et Nzaghi qui marque le but, mais après c'est Après, on avait envie de marquer ce deuxième but. On a lâché un peu. Il y a tout le monde qui est parti en avant. Et là, on prend le troisième. Mais je pense qu'il manquait encore plus de l'envie de pas prendre ce but. Ça veut dire qu'il fallait encore garder encore beaucoup plus fort que qu'on a fait.
Dis-moi, Claudio, est-ce qu'en 2005, il y avait pénalty sur Neymar ?
Pour moi, oui. Sûrement. Je ne suis pas un tricheur, mais là, c'est
demandé,
quand je regarde les images,
à,
c'est
à Alex, ton compatriote. C'était Alex qui avait fait la faute.
Ah oui, c'était Gomez.
Ouais, Gomez.
C'était Gomez. Bien sûr qu'il y avait faute. Ouais. Ah oui, sûr. Oui. À 100%.
Monsieur Nielsen, si tu nous écoutes. C'était un plaisir. Alors, tu es également sur le marché. Tu veux entraîner, t'as faim, tu m'as dit tout à l'heure justement. Priorité la France, Ligue 1, Ligue 2.
Oui.
T'es ouvert à toute proposition.
Je suis ouvert, ouais. Je préférerais bien sûr Ligue 1 ou Ligue 2. Je suis, j'ai faim. Je viens de passer à un mois et demi, deux mois au Brésil où j'ai bien mangé. J'ai passé du temps avec ma famille, mais par contre là, ça, le foot, ça me manque. J'ai envie d'entraîner et aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt à, j'ai passé toutes mes diplômes ici, je peux entraîner dans le monde entier. Et là, comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis prêt à rebondir à quelques pas et j'espère que ce sera ici en France.
Claudio, c'était un plaisir de t'avoir.
Merci beaucoup. Merci Claudio. Merci d'être venu
dans Génération After. On s'est régalé avec toi pendant 7h45 passé ensemble. Très bonne soirée à ça. Merci à toi. Merci également à Jean-Baptiste qui t'a accompagné.
Merci
ici.
À
très vite. Hein. Et tu nous tiens au courant. Hein. Dès que t'as un contact, tu le dis. Hein. Edouard, merci d'être venu faire un petit coucou quand même.
Salut Edouard, merci beaucoup.
Bon, Edouard a des problèmes de ligne apparemment. C'est pas grave, on le retrouvera très vite. Bonne soirée à toi aussi, Edouard. Dans un instant, le quiz de l'After. Merci encore, Claudio.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Moïse Acharchour. Et j'accueille Gilbert Bribois qui nous rejoint car c'est important
gars,
dans sa semaine. C'est un enjeu pour Gilbert aussi, pour la doublette Gilbert Walid, invaincu depuis début
Boca,
de saison.
Boca River, là. C'est
dans
Boca,
le quiz Boca de l'after, ah, ce sera
Boca
donc.
River, c'est Boca face. Contre Ferrocarril OST.
Alors, on a décidé.
Dernier de Ligue 2.
On a décidé de renforcer cette équipe chancelante battue chaque semaine.
Je ne sais pas où vous avez avancé ça, vous m'aidez à chaque fois quand je suis là. Mais allons-y,
on Joker pour gagner.
Jimmy et Kevin.
Les gars, on est quand même une émission avec des podcasts.
Vous êtes renforcés par une pointure en matière de quiz, Daniel Riolo, évidemment.
Petite pointure, c'est du 37.
Non, je c'est okay, parti, okay. Jingle quiz.
RMC, le quiz de l'after.
Avec Jérôme Thomas. Salut Jérôme.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Jérôme.
On accueille les deux candidats qui nous rejoignent, qui vont choisir, devoir choisir la bonne équipe pour espérer remporter un bomber shot.
Bien sûr.
La marque new-yorkaise. Hugo et Riyad, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Salut.
Alors messieurs, question de rapidité, celui qui a la bonne réponse choisit son équipe pour espérer l'emporter. Soyez pertinents, je pense que celui qui va avoir la bonne réponse choisira la team Gilbert Walid.
Ah bien sûr,
très logiquement.
Encore une question sur Bordeaux.
Question très simple. Dans quel club anglais a joué Claudio Cacciapa pendant deux saisons ?
Oh, c'est pas évident ça.
Allez-y, hein, faites des propositions. Non.
West Ham.
Non, c'est un peu plus haut.
Ils étaient en Ligue des Champions cette année.
Liverpool.
Dans la poule du PSG.
Arsenal.
Non, allez-y.
Joueur noir et blanc.
Newcastle. Qui a dit Newcastle en premier ?
Riyad.
Ah oui, Riyad.
Riyad, tu choisis quelle équipe ?
Riyad, viens chez nous.
Walid.
Bah, Walid, Riyad. Essayez de prendre un petit t-shirt Scott parce que là, il fait chaud là sur les prochaines semaines.
C'est un bomber, t'as raison.
Ouais.
C'est parti, première question et premier quiz.
Et premier quiz, surtout, on y va.
Allez.
On y va, premier quiz.
Allez, ça vient. Avec le jingle.
Ça vient pas, c'est pas grave. Quiz chaland ou nonchalant, avez-vous été attentif à l'actu foot des derniers jours ? On commence. Dans les 5 grands championnats, tout le monde joue. Question de rapidité. Dans les 5 grands championnats, avant les Leverkusen, quelle est la dernière équipe à avoir terminé son championnat sans aucune défaite ?
Arsenal ?
Non.
Preston North End ?
Non.
Dans les 5 grands championnats ?
Dans les 5 grands championnats. La Juve ?
Bien, Kéké.
Allez, ça prend la tête déjà.
Kevin, bravo, c'est fort, Kevin, qu'est-ce qui t'est arrivé là?
Moi la pression qui sur moi
hein.
Comme
t'as une fulgurance.
Allez, c'est parti, ça compte pas mais t'as la saison.
La saison
non, 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 non la 2011-2012,
c'est un coup de chance.
23 victoires, 15 défaites, 15 nuls, aucune défaite.
Allez, 1-0.
L'Atalanta Bergame a remporté sa première Coupe d'Europe hier.
Ouais, 63.
Sur le logo du club, il y a le profil d'une femme. Oui. Comment s'appelle-t-elle ?
La déesse. La déesse Atalante.
Atalante. La défense. Et non pas Atlante.
On a dit Atalante.
2-0. Je l'ai fait en français, moi. Qui a dit Atalante?
2-0.
On a compris l'arbitrage, on a tout compris.
2-0, on discute pas. C'est parti.
D'ailleurs, c'est une déesse grecque qui avait regardé ça.
Oui, on a compris l'arbitrage. On a compris. Tout le monde joue. Ce samedi, il y a un match très attendu.
Oui, PSG Lyon.
Panathinaikos, Salonique. Qui sera l'arbitre?
Frappard, c'est moi. Ouais, enchaîne, 3-0. Enchaîne, vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps,
frère. Je vous la montre tranquille.
Attends.
Non, il n'y a pas. Attends, on y va, on enchaîne.
Deux secondes. Bon, je vous la montre.
Duel.
Il est bon.
Duel Keke Diaz, Gilbert Bribois. Vous avez écouté un petit son.
Gilbert, il est là?
Je ne veux pas le nom de celui qui parle, mais le nom de la personne dont il parle. Ok?
Ok.
C'est parti.
Oui, je me rapproche de lui, mais je ne vais pas le dépasser, ça c'est sûr.
C'est facile.
Mbappé.
Non.
Juninho.
Dante.
Ici, non. C'est moi. Dante qui a parlé, mais il parle de qui?
Hilton. Merci.
4-0, c'est terrible! Non mais c'est une humiliation là, il reste 6 minutes, vous avez le temps.
Allez Gilbert, c'est maintenant.
4-0 pour la paire Jimmy et Kevin et Hugo.
Duel Walid Jimmy. Qui a dit ça il y a quelques jours? Il me faut son nom.
Levé de canon et puis vous rentrez à la maison et demain matin il y a entraînement.
Levé de canon et vous rentrez à la maison demain matin il y a entraînement. C'était avant-hier.
Brendan Chardonnay.
Avant-hier, le match.
Santini.
5-0.
5-0, la
Manita. C'est une humiliation.
Ah ouais, non, mais là, c'est une humiliation.
Non, mais Riyad, les casquettes shot, elles sont top aussi, t'inquiète pas.
Allez, vas-y.
Eh bien, Riyad, que les auditeurs. Riyad Hugo, qui a dit ça il y a quelques jours?
C'est effectivement un monumental échec pour le club.
Les temps.
Non. Un peu plus au sud.
Un peu plus à l'ouest.
Et à l'ouest. Allez.
Un club à l'ouest.
Échec monumental.
Le président de Lorient.
Comment il s'appelle?
Ferry.
Oui.
C'est qui ça?
Riyad.
C'est Riyad. Allez Riyad.
Bravo Riyad.
C'est toi qui nous a remis dedans. C'est toi qui nous a remis dedans.
La remontada est partie.
Tout le monde.
Qui a dit ça il y a quelques jours? Et surtout, de qui?
C'est quoi la question, de qui il parle?
Juste, on va
être clair. Ça fera deux points.
Qui a dit ça il y a quelques jours?
Of course he's staying.
Il parle de Pierre Sage pour le deuxième point.
Il y avait qu'un point.
5-2.
Dernière question.
5-2. Ça revient. Il reste 4 minutes, vous êtes bien.
Dernière question de ce quiz. Qui parle? Cette personne parle de lui. Donc, à la troisième personne, on y va.
Aujourd'hui, c'est un Kenny abouti. Je pense aujourd'hui, la phase finale de Kenny, elle est bien, mais elle n'est pas finie.
Kenny Lala.
Bravo
Kenny Delon. Kenny Delon, là.
Là c'est fort.
Kenny, il faut écouter.
Là c'est le coup derrière la tête.
Après la victoire de Brest,
6-2.
Non, je suis Gilbert quand même.
On y va, deuxième quiz, c'est parti, le quiz à la con.
Gilbert, il est là ou pas?
Avec les cons qu'il y a là. Parce qu'il y a des cons.
Il y a 6-2, il n'y a pas 6-3.
6-2. Vous aviez un invité tout de suite, Claudio Cachapa. Mais son vrai nom, tout le monde le connaît. Walid, n'est-ce pas? Claudio Roberto da Silva.
D'accord, oui.
Je vous donne un nom. Un nom complet brésilien. Vous devez me trouver le joueur, l'ancien brésilien lyonnais. Duel Kevin Walid, que des lyonnais. Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior.
Fred.
Non, Chris.
Juninho.
Ouais, c'est bon.
Gilbert Keke Diaz. Je veux
Gilbert Jimmy
Luca Tolentino Coelho de Lima.
Nilmar.
Non.
Lucas. Fred. Paqueta.
Oui. Paqueta. Bonne réponse ici. Merci Flo.
Mais c'est Flo qui a dit. Mais oh gars, je ne sais pas rien. Vous avez aussi un souffleur. Il a rien soufflé.
Allez, on enchaîne. Point.
Sur la question.
Silence s'il vous plaît. On enchaîne.
Personne ici, personne ne parle. Un duel auditeur.
Hugo Riyad.
Allez Riyad, c'est maintenant.
C'est très facile. Cristiano Marquez Gomez.
Allez, Hugo, c'est Hugo, 7-5, c'est fou, déjà ça fait voler, 7-4, il a dit 7-5, un dernier, tout le monde joue.
Raphaël Pereira da Silva.
Raphaël.
Voilà,
on enchaîne. Jimmy, vamos.
8-4.
C'est ça le quiz, allez,
il reste 2 minutes.
Troisième quiz, on y va pour le quiz after.
Tu as raconté de la merde de A à Z.
C'est le tour de Frédéric. C'est le tour de Frédéric.
Depuis 3 semaines, vous pouvez écouter les meilleurs moments, de les meilleures archives de l'after dans une nouvelle chaîne de podcast qui s'appelle Les Archives Mythiques de l'After.
Et on conseille celui de France-Irlande qui est exceptionnel.
Vraiment. Et, 2009. Voilà, mis en ligne hier, c'était en novembre 2009. Je vais vous demander, alors cette archive est sur le podcast depuis 15 jours, c'est l'archive de la remontada PSG-Barça 6-1. Je veux que vous me donniez chacun votre tour un des 28 joueurs ayant participé à ce match. Donc forcément, on soit de 22 pour les titulaires et 3 remplaçants de chaque côté.
Bon les gars, on y va, on perd pas de temps. Voilà, 28. Ça va aller vite là. Allez, c'est un ping-pong.
C'est parti, sans les auditeurs. Hein.
Sans les auditeurs.
Ouais. Walid.
Thiago Silva, c'est bon.
Neymar,
c'est bon.
C'est bon. Marquinhos, c'est bon.
Kevin Trapp.
Trapp, c'est bon.
Neymar.
Déjà dit.
Ah, non, c'est fini, c'est éliminé.
Non, c'est perdu, c'est terminé.
Merci,
Messi.
Victoire de Jimmy Kevin et Hugo, bravo, tu remportes un bumper shot.
Oui, gagné sur RMC avec Shot, la marque iconique new-yorkaise depuis 1913. Oui, Shot. Et pas Scott, ça fait des années qu'on prononce mal la marque. Toute la collection sur shot-store.com.
Merci Riyad, merci Hugo. Riyad, tu repars quand même avec une casquette Shot dans un instant. L'after avec Gilbert, Daniel et Flo. Gilbert va parler apparemment.
Attends, mais Nico,
il va parler.
Est-ce que c'est bon, ils ont perdu Gilbert et Walid?
Ça y est, c'est fini. Plus tu m'as vaincu, c'est terminé.
C'est une grosse raclée là quand même.
Ah, c'est terrible. 10-4. Allez, l'after dans un instant. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.